Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot. France Culture, bienvenue dans ce magazine des industries culturelles et du numérique, mais aussi des médias et de la politique culturelle. Soft Power, 15e saison, tous les dimanches soirs, 18h-20h, en direct. Bonsoir Thierry Breton.
Bonsoir.
Ancien patron d'Orange, ancien de Bull, une entreprise que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, ancien patron de Thomson, ancien patron d'Atos, ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac. Vous êtes aujourd'hui le français capital de Bruxelles, commissaire européen pour le marché intérieur, en charge du numérique, de l'industrie, des services, de la défense, de l'espace, de l'audiovisuel et du tourisme. On pourrait ajouter d'autres titres,
oui,
c'est
les
immense.
Les médias aussi.
Et les médias, ouais. Voilà. Vous êtes notre commissaire européen.
Exactement.
À la fois des médias et de la France. Et notre grand témoin, invité principal dans le poste, comme on disait à l'époque ce soir. Bull, ça ne nous rajeunit pas quand même.
Oui, mais
je vous ai senti un peu gêné.
Oh, pas du tout, au contraire, parce que Bull, c'était un constructeur informatique et c'est devenu maintenant le troisième ou quatrième constructeur informatique mondial qui est européen. C'est une très grande fierté. Nous sommes grâce à Bull et grâce aux efforts de tous les ingénieurs qui ont construit cette histoire. L'Europe est dans la course des très très grands calculateurs. C'est une fierté.
On vous retrouve dans un instant, 19h média encore, au sommaire de cette émission avec mon deuxième invité ce soir, Darius Rochebain, journaliste vedette de la télévision suisse désormais en France, aux manettes du 20h de LCI. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes un intervieweur célèbre. Ce soir interviewé, quelle impression ça vous fait d'être l'arroseur arrosé?
Je suis doublement de l'autre côté parce que journaliste
télé
à l'intérieur en principe. Et puis je suis suisse, donc je ne suis pas dans l'Union Européenne. Mais il y a une expression chez les Alémaniques qui court qui est le monstre doux pour désigner l'Europe, le Zanftus Monster.
Voilà, nous on parle de soft power,
voilà,
c'est le pouvoir
tout à fait
doux.
Proche de ça, on verra si elle est dure ou si elle est...
On le dira peut-être en suisse allemand ce soir. 19h30, le village global, je reçois Bérangère Cagna qui a coordonné le numéro spécial du Courrier International sur les États-Unis. 19h45, sur Superfail de Guillaume Herner, ce soir Azincourt, la mère de toutes les batailles, en l'occurrence de toutes les défaites. Si on ajoute le box-office et le nouvel album de Bruce Springsteen, voilà pour le sommaire de ce magazine du dimanche soir. Soft Power à mes côtés pour interroger nos invités, Emmanuel Paquet de L'Express et Zoé Cesse de France Culture. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Frédéric.
Cette émission réalisée ce soir par Perret Legras avec en régie Sylvain Latu. Cette émission a été préparée par David Pata avec Nicolas Gastineau. Et vous pouvez suivre notre programme sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Facebook, LinkedIn, Spotify, les grands amis de Thierry Breton, ses nouveaux amis. Et bien sûr en podcast chaque semaine à réécouter sur France Culture et sur la nouvelle application Radio France. C'est le magazine des industries culturelles et du numérique Soft Power en direct jusqu'à 20h. Vous avez le programme, c'est parti. Rebonsoir Thierry Breton, vous êtes notre grand témoin ce soir, notre invité principal, commissaire européen, je l'ai dit, pour le marché intérieur, ainsi que le numérique, l'industrie, la défense, l'espace, l'audiovisuel, les médias, le tourisme, etc. Vous occupez ce poste depuis presque un an et pour un mandat jusqu'en 2024. Vous êtes le principal représentant français à Bruxelles au sein de la Commission européenne, votre nom ayant été proposé par Emmanuel Macron. Je résume votre parcours en 5 dates ce soir. Vous êtes d'abord un entrepreneur, ça vous convient comme premier titre.
C'est comme ça que j'ai démarré ma vie, oui, c'est vrai.
Vous sortez de l'école, d'une école d'ingénieurs ?
Absolument.
Supélec ?
Absolument.
Vous êtes aussi, on le sait peu, un romancier à succès. Vous avez écrit des thrillers technologiques il y a longtemps, certains qui ont été des best-sellers à l'époque, Software sur les virus informatiques avant la lettre, 1984, best-seller, plus de 1 million d'exemplaires vendus.
Oui, c'est vrai, oui.
C'était prémonitoire.
Ça a été considéré comme tel, c'est vrai, oui. Enfin, j'étais jeune, hein, j'avais 28 ans.
On peut faire des bêtises.
C'est prescrit,
vous voulez dire.
Oui, que j'ai récidivé, du reste, avec un deuxième livre.
Natoire.
Non, c'était Vatican III.
C'était
précisément comment le monde risquait de se fragmenter, de se partialiser en espace de communauté, logique, au-delà des frontières, et notamment à travers le ciment religieux.
Vous continuez à vous...
C'était en 1986, vous voyez. Et voilà. voyez l'actualité.
Vous continuez à vous intéresser à la littérature technologique dystopique ?
J'ai moins le temps, j'ai évolué ensuite, puisque j'ai écrit des essais qui étaient des essais plus techniques et puis également plus économiques. Voilà, j'ai évolué vers l'économie et j'ai aussi une passion que j'aime à rappeler, c'est celle d'enseigner. J'ai enseigné beaucoup dans ma vie, d'abord en tant que jeune coopérant militaire. À l'époque, nous faisions notre service militaire pour certains d'entre nous en coopération. Donc j'étais professeur.
C'était notre cas aussi.
Voilà. J'ai eu la chance de le faire à New York et j'étais professeur de mathématiques et d'informatique en 79. Et puis j'ai toujours gardé une activité d'enseignement et j'étais également, comme vous le savez, après avoir quitté mes fonctions gouvernementales, j'ai pensé que c'était bien de prendre un petit break et pendant 2 ans, j'étais professeur à Harvard.
Voilà. On m'a dit que vous aviez rencontré Bill Gates quand il y avait encore 20. Non, mais à l'époque où il n'y avait même pas 20 salariés chez Microsoft.
C'est vrai, oui, c'est vrai. Je connais depuis très longtemps, oui. Mais il n'est pas le seul que je connaisse bien dans ce monde.
C'est l'époque des premiers plateaux télé et du premier succès de librairie. Thierry Breton a 30 ans et vient de co-signer un roman de science-fiction, Software, vendu à 1,5 million d'exemplaires. Une formation d'ingénieur est déjà sa petite entreprise. Thierry Breton voit loin.
Ma pensée n'est plus celle de Descartes. La pensée est maintenant la pensée d'un informaticien, c'est-à-dire plus circulaire, si je puis dire. J'ai appris à me servir de l'information, à savoir comment la puiser, comment la retrouver.
On vous écoute, là, c'était en 2005.
La voix a un peu changé, quand même.
Exactement, non plus Descartes, mais le circulaire.
Oui, circulaire, oui, ça veut dire effectivement global, ça veut dire holistique, ça veut dire effectivement il faut appréhender les choses, il faut appréhender l'information dans sa totalité. Et puis surtout, voyez-vous, apprendre à choisir, et c'est absolument fondamental, et notamment pour les jeunes, dans cet univers d'information, apprendre à se créer son propre chemin, apprendre à faire le tri entre le vrai et le faux. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais dire.
J'ai découvert aussi que vous aviez écrit un rapport prémonitoire également, le télétravail en France date de 1995, c'était quasiment avant Google, Facebook ou Wikipédia. Déjà, c'était un sujet qui vous préoccupait ?
Oui, c'était du reste une demande de à l'époque, c'était Édouard Balladur.
Oui, c'était un rapport officiel.
Un rapport officiel à la documentation française. On m'avait demandé de réfléchir précisément aux nouvelles formes de travail. Effectivement, j'avais regardé, avec toute une équipe du reste, comment les technologies de l'information risquer de changer très profondément notre relation au travail. Et est-ce que le corpus juridique qui encadre notre droit du travail pouvait s'adapter à tout cela, et la réponse était déjà oui. Et puis après, je le cite aussi parce que j'étais passionnant de l'avoir fait. Les téléservices en France, c'était l'année d'après, la documentation française aussi. Et là, c'était vraiment, donc on était en 96, Internet, c'était le tout début, et c'était vraiment essayer d'imaginer quels seraient les services de demain. C'était un travail gouvernemental aussi. Donc vous voyez, la France a toujours, au fond, essayé d'anticiper les conséquences des grandes mutations technologiques.
Il y avait le rapport Minc et Nora un peu.
Ça, c'était bien avant, c'était au début des années 80.
Mais qui déjà était prémonitoire sur l'informatique.
Absolument.
Vous enchaînez ensuite les postes comme vice-président de Bull en 96-97. PG de Thomson en 97, de France Télécom de 2002 à 2005, devenu Orange depuis. Vous êtes ensuite ministre de l'économie, des finances, de l'industrie de Jacques Chirac 2005-2007, puis PDG du groupe Atos 2009 à 2019.
C'est là où vous oubliez ma période de 2 ans d'enseignement. J'insiste parce que c'était très important. J'ai enseigné la gouvernance aux États-Unis pendant 2 ans. Vous voyez. Je n'ai pas été qu'un chef d'entreprise, ni du reste qu'un homme politique. J'ai été aussi un enseignant.
À la Harvard, donc.
Oui, à l'université d'Harvard, oui, sur la gouvernance. Et
dans la Kennedy School ou à la...
Non, c'était à la Business School.
À la Business School, Harvard Business School. Qui est l'un des fleurons de cette université de Cambridge.
J'avais une collègue qui s'appelle Shoshana Zuboff, que vous connaissez bien, qui a écrit des livres passionnants. Également.
Dont on va parler très prochainement.
Mon voisin de bureau, Larry Summers, parce qu'on avait mis en fait les anciens ministres des Finances dans la même aile.
Voilà. Il faut dire qu'il était ancien président d'Harvard.
Il était aussi ancien ministre des Finances.
Absolument.
C'était à ce titre-là qu'il était. Il n'était plus à l'époque président d'Harvard pour les raisons que vous savez sans doute.
Absolument. Il y a eu quelques problèmes avec des questions noires et puis avec des femmes aussi.
Enfin, c'est ce qu'on avait dit.
Depuis décembre dernier, vous êtes commissaire européen pour le marché intérieur, je l'ai dit, le numérique, l'industrie, les services. 4 sujets principaux ce soir avec vous. Quel plan de relance européen pour le numérique, la 5G, le soft power européen, qui fait un peu écho finalement à Software, le titre d'un de vos livres. Et enfin, et on va commencer par ce sujet, comment réguler le numérique en général et les GAFA en particulier. Sur ce sujet, le Parlement européen s'est positionné mardi soir, le 20 octobre pour une stricte régulation des géants du numérique au sein de l'UE, en amont d'un projet de législation attendu en décembre sur lequel on va revenir. Et le Premier ministre, Jean Castex, est venu vous voir.
Il faut donc impérativement nous attaquer plus fortement encore à ceux qui manipulent et à ceux qui transmettent la haine. Mais, vous l'avez dit, il y a aussi toute la question de la haine en ligne, du recours aux réseaux sociaux. Nous avons aussi des sujets de directives communautaires à faire évoluer pour mieux responsabiliser les hébergeurs. Je serai, sachez-le, dès vendredi à Bruxelles pour rencontrer plusieurs commissaires et la présidente de la Commission européenne. Et c'est l'un des premiers sujets que je vais aborder avec elle. Nous avons déjà pris, avant même les terribles faits dont nous parlons cet après-midi, des initiatives sur le champ communautaire. Ça sera une de nos premières priorités.
Vous êtes rencontré vendredi à Bruxelles. Vous êtes sans doute pas serré la main, mais il paraît qu'il a été très, très, très ferme, dit-on dans son entourage. Quelle a été la discussion et surtout, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Je crois que c'était très bien que le Premier ministre, d'abord je me suis réjoui de sa venue à Bruxelles, c'était très bien qu'il vienne, parce qu'effectivement nous sommes très avancés sur la directive européenne sur laquelle nous travaillons. On appelle ça le DSA, Digital Service Act. C'est le terme consacré.
La loi sur les services digitaux.
C'est une loi sur les services digitaux qui sera évidemment la loi qui va faire jurisprudence. Donc c'était important qu'il vienne effectivement pour bien comprendre avec son équipe, parce qu'il n'est pas venu seul, il est venu également avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et de la relance, et également le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Et c'était bien qu'il vienne avec ces deux ministres, parce que c'était important qu'ils entendent effectivement, où nous sommes aujourd'hui, ce qui va se passer, et que également on puisse s'ajuster en fonction des préoccupations. Comme on est très avancé, on voit bien du reste les préoccupations de chacun des États membres, hein, qui sont très préoccupés. Alors certains, c'est vraiment sur les propos haineux, et c'est parfaitement compréhensible après ce que nous venons de vivre, j'en ai parlé tout à l'heure. D'autres, c'est plus sur la pédopornographie, des troisièmes sur le terrorisme, des quatrièmes sur les produits contrefaits. Donc chacun a, tous ces sujets sont des sujets qui sont extrêmement importants.
Et complexes.
Oui, mais enfin, on va voir, on va bien pouvoir les traiter exactement comme il faut. Et voyez-vous, la régulation qui est aujourd'hui est celle qui opère pour finalement ce que j'appelle cet espace informationnel. Et je voudrais, si vous permettez, le dire en une phrase. Au fond, on le voit bien, tous nos auditeurs le voient, on vit désormais très profondément ancré dans cet espace numérique. Moi, je préfère l'appeler espace informationnel. Et je prends souvent l'exemple des espaces qu'on connaît bien. C'est ceux qui ont structuré l'activité humaine, l'activité économique, l'activité sociale. L'espace territorial, il a fallu des millénaires pour l'organiser, le cadastre, les lois qui ont réglementé précisément cet espace qui était créateur de richesses, créateur de vie ensemble, qui a été du reste aussi l'objet de convoitises, voire de guerres. Et puis l'espace maritime, et puis l'espace aérien. Ces espaces, progressivement, il a fallu les organiser, il a fallu légiférer. Et puis en parallèle, on voit l'émergence, vous le rappelez, ça ne date pas d'aujourd'hui, des années 80, j'étais l'un de ceux qui les ont annoncés, vous le rappeliez, cet espace informationnel qui devient de plus en plus important, dans lequel on apprend le e-learning, le travail à distance, la téléformation, mais également, évidemment, on a des contacts sociaux, bien sûr à distance, on se distrait. C'est un espace qui est aussi un espace dans lequel beaucoup d'activités économiques ont lieu.
Et de liberté.
Et bien sûr de liberté, et qui n'est pas ou très peu régulé. Ou en tout cas, c'est le sentiment qu'il donne. Eh bien, voyez-vous, c'est exactement la mission qui est la mienne au sein de la Commission sur ce sujet particulier. On est donc très avancé et nous allons proposer précisément une régulation qui permettra, je crois, de répondre à toutes les préoccupations de chacun et de chacun, mais surtout de faire évoluer la directive, c'est-à-dire la loi aujourd'hui qui encadre cet espace, elle date de l'an 2000.
La directive e-commerce.
Ouais. Voyez-vous, c'est il y a 20 ans. À l'époque,
Google
était dans un garage.
C'est pas surprenant qu'il faille attendre 20 ans pour avoir une nouvelle directive.
Non, parce qu'encore une fois, il faut du temps. Combien de temps a-t-il fallu, M. Martel, pour réguler, organiser l'espace territorial?
Ou l'aviation.
Combien de temps a-t-il fallu pour organiser l'espace maritime? Avec d'abord les pirates.
Bien.
C'est vrai qu'il y a le Far West.
Dans
l'espace informationnel.
Comment on va faire?
Et juste pour terminer, l'ambition qui est la nôtre, à la Commission européenne, et la mienne en particulier, c'est que précisément nous ayons une législation qui permette encore une fois de régler l'ensemble de ces problèmes, mais sur du temps long. Et on ne va pas s'amuser, non, à refaire des législations tous les 5 ans. Donc il faut effectivement essayer de viser, bon, c'est très ambitieux, d'anticiper sur les 20 prochaines années. Et je suis prêt à répondre à vos questions sur le comment.
C'est une législation commune qui ne sera pas état par état.
Alors, il y a deux. Si vous voulez qu'on rentre un tout petit peu dans le détail.
Il faut.
Il y a deux choses. Il y a d'abord les obligations des grandes plateformes. Et voyez-vous, si vous permettez une seconde, je vais prendre une analogie. Elle vaut ce qu'elle vaut, comme toutes les analogies. La crise de 2008 et 2009, la crise bancaire, a fait apparaître finalement des acteurs systémiques extrêmement grands, qui étaient les très grandes banques, qui étaient du reste tellement grandes qu'elles estimaient qu'elles étaient too big to fail, trop grandes pour pouvoir tomber, et que du coup, c'était les États qui allaient venir à leur aide, mais jamais elles ne tomberaient, parce qu'elles avaient une telle taille que finalement c'est elles qui imposaient leurs lois aux États et pas l'inverse. Eh bien non, on a finalement régulé les grandes banques, on leur a demandé d'avoir plus de fonds propres, on leur a demandé d'avoir des audits, on leur a demandé d'avoir ce qu'on appelle des compliance officers, c'est-à-dire des personnes en interne qui vérifient que les choses se passent correctement. On leur a demandé beaucoup de choses, et finalement, ben voilà, elles s'y sont pliées. Et celles qui ne voulaient pas se plier, eh bien on leur a dit qu'elles risquaient de se faire démanteler. On a régulé ces opérateurs systémiques.
C'est ce qu'on va faire pour les géants du net.
La crise actuelle...
Too big to care, vous avez dit.
C'est ce que j'ai dit, oui, parce que la crise actuelle nous fait encore plus, si c'était besoin, prendre en compte, en considération, le fait que, précisément dans cet espace informationnel, on a tous vécu le confinement, on parle peut-être dans certains pays, on en reparle encore, et donc on voit bien que ces plateformes jouent un rôle absolument essentiel dans notre environnement, et que, comme je leur ai dit, vous voyez... Encore une fois, ce que je dis, c'est contre personne. Je leur ai dit, il faut désormais vous adapter à nous, et pas nous à vous. Et donc, il faut absolument que vous preniez en considération l'environnement économique, social, démocratique dans lequel vous opérez. Et si vous ne le faites pas, eh bien nous allons reguler.
On va le faire exactement à votre place. Alors vous avez justement dialogué avec Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, auquel vous avez fait la leçon, hein. Paye tes impôts, lui avez-vous lancé. N'essaye pas de jouer au plus malin.
Non,
c'était
pas,
en mai dernier.
Leçon,
non, mais on vous écoute.
You know, I have been a CEO myself, and I always told to my team, don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Don't go to heaven. Pay taxes. Don't be too smart. It may be something that we need to learn in the day to come, because we are entering into a difficult world where you will have a lot of economical problems, especially...
Ah, vous avez été prof à Harvard, mais vous gardez un bel accent français. C'est tout à fait sympathique, on vous le reproche
too
pas.
Too big to care, vous voyez.
Exactement.
Too big to care. Il faut prendre soin.
Donc là, vous dites à Mark Zuckerberg, voilà, il va falloir que tu t'adaptes à nous, mais concrètement, ça se passe comment, en rentrant dans
ça
les détails
bien. Alors, d'abord, ça se passe bien avec eux, parce qu'on a des dialogues qui sont constructifs, et du reste, je le redis encore une fois, on ne fait ça contre personne, on fait ça tout simplement pour les 20 ans qui viennent. Dans les 20 ans qui viennent, il y aura d'autres plateformes qui viendront, il y aura d'autres émetteurs qui seront là, et donc il faut qu'on régule, encore une fois, non pas contre telle ou telle entreprise, mais encore une fois, pour nous, pour nos 456 millions de concitoyens
mais
européens.
Mais on parle de Facebook. Alors, Facebook, ils sont en Irlande, par exemple.
Oui, mais justement, mais ça, le principe du pays d'origine, il faut qu'il demeure. C'est un principe fondamental du marché intérieur. J'y suis très attaché.
Mais en quoi c'est le pays d'origine, l'Irlande?
Le pays d'origine, ça veut dire le premier pays où vous venez vous établir. C'est un choix qui est un choix fondamental de l'Union européenne. Vous avez le droit, si vous montez une entreprise, de venir vous établir en Irlande, en France, en Espagne ou en Italie.
Oui, mais vous payez vos impôts.
Maintenant on parle sur la régulation. Et donc ce qu'on fait d'abord, c'est qu'effectivement ce droit demeure, mais en revanche, les droits sur les plateformes, la législation sur les plateformes sera la même partout, elle est harmonisée. Et donc ça, c'est un point très important. Deuxièmement, s'il y a une infraction qui est commise, et je vais y revenir, eh bien cette infraction, c'est un peu comme s'il y avait un mandat d'arrêt européen, il est lancé, et encore une fois, tous les États membres doivent l'exécuter. Donc on a réglé ce problème.
Mais le mandat d'arrêt, ça va en Irlande.
Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça va là où ça va, il nous faut un interlocuteur, et c'est lui qui le recevra. Donc c'est très important qu'il y ait un interlocuteur par plateforme. Deuxième chose, mais je crois pour bien comprendre, il y a deux niveaux quand on parle de régulation, encore une fois, des plateformes et des réseaux sociaux. Et d'abord, tout ce qui concerne, je dirais, l'activité, on va dire, d'infrastructure, au sens très large. Au fond, les plateformes nous ont dit pendant très longtemps, c'était la directive e-commerce, qu'elles n'étaient pas responsables de ce qui se passait dans leurs tuyaux, si on prenait l'analogie avec le monde des télécommunications. Et là, on est encore attaché au fait de la liberté d'expression et du fait qu'il n'y aura pas une surveillance généralisée. En revanche, elles vont avoir, comme les grandes banques, un devoir de répondre rapidement à toutes les injonctions qui leur seront faites. Poursuivons l'analogie bancaire. Lorsque vous faites un virement ou vous recevez un virement, bien souvent, au-dessus d'un certain seuil, c'est 1000 euros, vous devez expliquer à votre banquier d'où vient l'argent ou pour qui vous l'envoyez. Et si vous ne l'expliquez pas, vous faites l'objet d'un signalement à Tracfin. On ne vous demande pas de savoir ce que vous faites de votre argent, on vous demande d'avoir une surveillance. Eh bien, nous allons le demander aussi aux grandes plateformes. Et je m'explique. Les grandes plateformes, il y a des messages qui s'exécutent, qui s'échangent sur ces plateformes, et les plateformes mettent les uns et les autres en relation. Avec un principe qui est le... Pardon de cet anglicisme, mais c'est one to many, un à plusieurs. Lorsqu'on s'exprime, on peut s'exprimer évidemment dans son petit cercle, on peut s'exprimer avec un seul interlocuteur, ou bien on peut s'exprimer avec 10 000, 50 000, 100 000, 1 million de personnes qui vont entendre votre message. Et donc, les obligations qui sont les vôtres, alors qui sont encore une fois non pas celles des plateformes, mais celles de ceux qui vont utiliser les plateformes, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire tous ceux qui les utilisent, il faut bien leur rappeler que les règles de droit, elles existent. Dans la rue, vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi à la personne que vous croisez. Et notamment quand il s'agit de propos haineux, voire racistes, voire antisémites.
Non mais on est d'accord.
C'est condamné.
On est d'accord.
Eh bien, sur les réseaux sociaux, c'est la même chose.
Oui, mais il s'agit de millions de messages échangés chaque minute. Il faut aller en Irlande pour attaquer Facebook.
Non.
Vous voyez bien le problème.
C'est pas eux. Dans la rue, c'est pas des millions, c'est des milliards de personnes sur la planète qui bougent. Et pourtant, vous n'avez pas une personne ou un policier derrière chacune d'entre elles. À partir du moment où il y a une infraction qui est commise, soit parce que vous la voyez vous, ça vous concerne sur les réseaux, soit parce qu'une autorité judiciaire la voit, il y a une obligation désormais, il y aura une obligation de moyens et de résultats des plateformes, d'intervenir immédiatement. Et quand je dis de moyens et de résultats, ça ne va pas être rien.
Mais
ça veut donc dire qu'il va falloir précisément qu'ils puissent immédiatement intervenir si vous avez une dénonciation calomnieuse, si vous avez, encore une fois, des règles qui sont contraires au droit. Mais c'est vrai aussi pour les produits contrefaits. Ce sera vrai aussi pour les ventes illicites, et notamment de produits stupéfiants ou autres. Vous voyez, et donc ce que je veux dire, c'est que vous avez un socle où on va avoir des obligations de réaction immédiate pour les plateformes, de pouvoir intervenir, encore une fois, à la demande des autorités judiciaires qui sont aujourd'hui déjà saisies. Les plateformes existent, mais il faut avoir la capacité d'intervenir immédiatement, notamment pour pouvoir identifier la personne qui serait éventuellement coupable d'un acte qui est illicite, mais pas uniquement, et c'est là où c'est très important. Ce socle, il va exister, les obligations de moyens seront là, la réactivité sera nécessaire et va être auditée, et plusieurs fois par an, et si jamais on voit que les plateformes ne répondent pas, elles seront sanctionnées financièrement, mais aussi avec des interdictions qui pourront être temporaires ou définitives d'exercer sur le marché intérieur, voire des démantèlements. On ne va pas avoir la main qui tremble. On ne veut pas avoir, évidemment, à les mettre en application. C'est un peu comme pour les grandes banques. Mais les sanctions seront là. Et puis derrière, vous allez ensuite y greffer dessus les législations spécifiques sur les contenus haineux, les législations spécifiques sur le terrorisme, les législations spécifiques sur les produits contrefaits,
les contenus illégaux, etc.
Et puis il y en aura d'autres dans les années qui viennent. Et donc, on va faire en sorte, c'est très important, que cette structure-là permette précisément, enfin, de commencer à réguler l'espace informationnel pour ce qu'il est, tout en faisant encore, et je le dis vraiment, c'est ma conclusion, si vous permettez, il faut vraiment qu'on bâtisse un pont pour que tout ce qui est autorisé offline, si vous permettez l'expression, nos auditeurs comprendront.
En dehors d'Internet, dans la vie réelle.
Le soit online, et que tout ce qui est interdit offline le soit également online.
On est d'accord sur ça, sauf que...
C'est le but du dessin.
Vous avez pris, je ne sais pas, 4 minutes pour répondre à ma question. Pendant ces 4 minutes, il y a sûrement eu 30 000 messages en France, et encore plus en Europe, où il y avait des fake news, des contenus haineux, des contenus illégaux. Ce que vous dites est parfait sur le papier, mais ça ne peut pas fonctionner.
Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. À partir du moment où vous avez la moindre demande, parce que vous voyez qu'il y a un fait litigieux, on doit pouvoir réagir le plus rapidement possible. Et c'est ça précisément les obligations de moyens.
Il faut plus d'anonymat.
À partir du moment, l'anonymat, il restera. Parce que l'anonymat, il est là, il restera. Mais, déjà, je vais parler à l'ancien président d'Orange que je suis, à partir du moment où il y a une injonction d'une autorité judiciaire,
on sait qui c'est.
Mais bien entendu.
Bon. Mais on fera à partir d'un certain nombre de followers, par exemple.
On peut le faire. Alors on peut évidemment, c'est une très bonne remarque, on peut évidemment augmenter la réactivité en fonction de l'impact. too big to care. Mesurez l'impact. Regardez, quand vous avez des référés, et dans votre métier, on en voit quelques-uns. Que fait le juge des référés? Il regarde dans le monde réel, j'allais dire, et non pas dans le monde immatériel. Il regarde évidemment l'impact. Si c'est un référé, parce que je dis n'importe quoi, vous avez été victime d'une dénonciation ou de je ne sais quoi dans votre cage d'escalier. Bon, bah, il va prendre.
Donc c'est pas le fait de publier, c'est le fait juge, de diffuser.
Le juge des référés regarde l'ensemble, y compris encore une fois, l'impact.
Que vous voulez casser, c'est la viralité, c'est-à-dire.
Alors c'est certain, la viralité, c'est très bien d'en parler, parce que la viralité, elle est bien souvent provoquée, et je le dis de façon, encore une fois, sans acrimonie aucune, elle est bien souvent provoquée par les plateformes elles-mêmes, qui, lorsqu'il y a des contenus, qui sont des contenus qui sont sujets à polémique, et souvent du reste sur des choses qui sont par moments même illicites, eh bien, nous avons identifié, je ne citerai personne, mais je les connais. Des algorithmes qui vont derrière pousser ces contenus qui sont des contenus illégaux, parce que derrière on va pouvoir mettre de la publicité,
du buzz,
et monétiser,
etc.,
la controverse. Eh bien ça, ce sera interdit. Donc on va aussi auditionner les algorithmes.
Bonjour monsieur, vous êtes algorithme, comment ça se passe?
Oh, ça c'est beaucoup plus. C'est
Thierry
beaucoup plus
Breton, commissaire européen pour le marché intérieur, en charge notamment du numérique, et mon invité ce soir dans Soft Power en direct sur France Culture. Une question d'Emmanuel Paquette.
En fait, deux questions. La première, c'était, parce que là vous citiez le cas commun d'un internaute qui, avec beaucoup de followers, en gros incitera à la haine par exemple. Mais si c'est un homme d'État, parce qu'aujourd'hui on en a vu quelques-uns quand même. À ce moment-là, comment vous allez faire, notamment des chefs d'État étrangers? Puis deuxième question sur la viralité. On a vu que jeudi dernier, Twitter a décidé de ralentir les retweets de certaines informations. Il faut avoir lu le contenu ou le commenter avant de pouvoir le diffuser. Donc c'est une manière de casser la vérité. Est-ce que ça vous semble être une bonne piste de réflexion?
Ce qu'on appelle le slow web.
C'est une question importante. Je le redis, il n'y aura pas de monitoring généralisé de l'internet.
Parce que c'est pas
ça
possible.
N'existe pas. Mais de même qu'il n'y a pas de monitoring de ce qui se passe, encore une fois, dans les cages d'escalier ou dans les rues.
Sauf peut-être en Chine, mais c'est un autre débat.
Et encore. Donc il n'y aura pas de monitoring général, je le dis. La liberté d'expression demeure intacte. En revanche, les obligations de ce qui se passe sur votre réseau. Vous savez, vous disiez, j'étais ministre. Moi, en tant que ministre, si jamais je voyais dans l'exercice de mes fonctions, c'est-à-dire d'officier ministériel, et quelque part d'agent public, un acte délictueux qui se déroulait, ou que je pouvais considérer comme délictueux, j'avais l'obligation de procéder à ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire d'aller informer le procureur. Donc cette obligation, bien sûr que, encore une fois, en anticipation, des plateformes vont effectivement, là aussi, se doter de ces moyens pour pouvoir réagir proactivement. Parce que si jamais elles ne corrigent pas ce qui se passe, et dans le cas précisément, vous faisiez, quelle que soit la condition de celui qui émet son message, je le redis clairement, quelle que soit la condition de celui qui émet son message, à partir du moment où celui-ci est potentiellement délictueux, et que, encore une fois, un appel est fait, elle doit réagir immédiatement. Qu'elle anticipe, c'est parfaitement son droit, et qu'elle se dise que, oulala, il va se passer quelque chose, article 40, il va peut-être falloir que j'anticipe et que je corrige, c'est parfaitement son droit. Elle peut le faire aussi en mettant des bandeaux. Elle pourra le faire. Et puis, voyez-vous, dans ces bonnes pratiques, on va aussi les mesurer, ces bonnes pratiques. On va, encore une fois, veiller à ce que chacun les applique. Et je le redis, si elles ne sont pas appliquées, on sera obligé, parce que c'est le monde de la régulation, on sera obligé de mettre des sanctions.
Mais alors,
et je veux que ces sanctions soient proportionnées, progressives, mais pour les plus ultimes, évidemment, qu'elles soient clairement... suffisamment forte, ça veut dire aller jusqu'au démantèlement, pour que finalement tout le monde, encore une fois, s'adapte.
Donc vous annoncez
le
démantèlement de Facebook.
Non, mais absolument pas ça.
Restons sur Terre.
Vous faites une fake news.
Pardon.
Si vous me permettez.
Vous venez de citer plusieurs fois l'article 40. C'est un exemple parfait.
Laissez-moi finir. Pour illustrer.
L'article 40, on est dans le droit français. Pourquoi finalement ne pas imposer à ces géants d'avoir un bureau dans chaque pays européen, de les réguler de manière européenne commune, mais avec une application nationale, quitte à avoir des jurisprudences différentes.
C'est exactement ce qu'on va faire, mais on va être encore plus efficace, parce qu'on s'est bien posé cette question, si vous permettez, plutôt que de faire à 27, qui fragmente le marché intérieur, on le redit, chacun, on est libre, on s'installe où on veut, mais on a l'obligation légale d'avoir un représentant légal dans l'Union européenne. Et la loi, et celle que je viens de décrire, s'applique la même pour tous.
Mais c'est pas une usine à gaz.
Mais c'est l'inverse, au contraire. C'est ce que vous, pardon de le dire avec tout le respect que je vous dois, mais c'est ce que vous, si jamais on avait fait à 27, ça aurait été une usine à gaz. Donc c'est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus efficace. Donc vous avez effectivement.
Mais vous ne croyez pas à une re-territorialisation d'Internet?
C'est l'inverse.
On parle de balkanisation.
Nous sommes européens. Donc il nous faut un droit européen, il est là. Et derrière, là où vous avez raison, à partir du moment où il y a une injonction, quelle qu'elle soit, c'est comme un peu pour, comme Interpol. Aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes sanctions, encore une fois, qui vont être dans le monde physique que nous connaissons, pour tel ou tel crime ou délit. Il y a des sanctions, et là aussi, les sanctions, elles sont évidemment toujours à la main des États membres. En revanche, quand une sanction est identifiée, on l'envoie à Interpol, le mandat d'arrêt, et toutes les polices européennes ont, Europol, ont l'obligation, précisément, d'arrêter l'individu en question. Eh bien, c'est pareil. Ça sera donc beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, et je crois, encore une fois, qui nous permettra de régler, une bonne fois pour toutes, le problème, encore une fois, des obligations des plateformes, tout en maintenant la souveraineté législative sur les questions pénales qui restent à la main des États, mais qui, quand même, il faut le dire, comme c'est le cas de la plupart des infractions pénales, s'harmonisent de plus en plus au niveau de l'Union européenne et dans notre histoire européenne.
Emmanuel Paquet.
Oui, je revenais juste sur la question sur le ralentissement de la diffusion des informations, ce qu'a essayé de faire Twitter. Est-ce que ça vous semble
oui,
le slow web hein,
non, mais chacun va venir avec ses idées, précisément pour se donner le temps. Pour se donner le temps d'intervenir, et puis, s'il n'intervient pas, vous savez, c'est ce qui se passe, c'est comme pour l'article 40, si vous n'intervenez pas, c'est vous la fin qui êtes responsable. Donc chacun se donnera le temps, encore une fois, d'être prêt, parce que vous savez, c'est un peu, là encore l'analogie, c'est comme pour les banques, connaissez vos clients, pardon de cet anglicisme, on leur dit « know your customer ». Connaissez vos clients. Vous devez connaître votre client sur le web. C'est pareil aussi sur les plateformes qui vendent aujourd'hui des produits. Et notamment, on sait que certaines plateformes vendent des montants considérables. Ça peut être 10, ça peut être 20% du chiffre d'affaires de produits tout à fait contrefaits et illégaux. Donc ça aussi, il faut connaître son client, comme les banques doivent connaître leurs clients. Voilà.
Je vous propose, Thierry Breton, d'écouter le discours d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, sur ces questions.
Das kommende Jahrzehnt muss Europa's digital decade sein.
Nous devons faire de la décennie qui s'ouvre la décennie numérique de l'Europe. Nous avons besoin d'un plan commun pour l'Europe numérique, avec des objectifs clairement définis pour 2030, notamment en matière de connectivité, de compétences et de services publics numériques. Nous devons aussi nous doter de principes clairs. Le droit au respect de la vie privée et à la connectivité, la liberté d'expression, la libre circulation des données, et la cybersécurité. Mais l'Europe doit montrer la voie à suivre dans le domaine du numérique, sinon elle sera contrainte de s'aligner sur d'autres acteurs qui fixeront ces normes pour nous. C'est pourquoi nous devons agir avec sévérité et agir avec détermination.
Une question très générale, Thierry Breton. Je rappelle que vous êtes commissaire européen pour le marché intérieur, en charge notamment du numérique. Notre invité ce soir en direct sur France Culture. Je lis de nombreux articles, par exemple ce week-end dans le Nouvel Obs. Un fiasco à répétition, c'est une étude, enfin un article très long qui raconte comment, que ce soit au niveau de l'OCDE, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau des différents organismes internationaux, on n'a pas réussi à réguler le numérique. Pourquoi est-ce que finalement ça a été si long, c'est toujours si compliqué ?
Puisque vous suivez l'actualité, vous avez vu qu'il a fallu beaucoup de temps aussi aux États-Unis pour commencer à envisager des sanctions contre une grande plateforme.
C'est en cours, ouais.
Eh oui.
Google.
Après nous, je crois que nous sommes un peu en avance.
C'est optimiste.
Non, c'est réaliste.
Est-ce que vous avez en tête, vous savez, ces grandes régulations de Roosevelt, au fond, oui au capitalisme, oui à l'économie de marché, mais on crée la FTC, la Federal Trade Commission, on crée la FCC, la Federal Communication Commission, on a la Cour suprême et on régule ce capitalisme pour éviter notamment les abus de position dominante.
C'est le deuxième volet de notre acte législatif que nous appelons le DMA, Digital Market Act. C'est précisément réguler le marché dans lequel ces plateformes opèrent. Là, on est complètement sur un deuxième volet, qui est le volet auquel vous faites référence. Et si vous faites référence à l'histoire, effectivement, notamment de la régulation des grandes compagnies pétrolières ou des grands opérateurs de
télécommunications,
ou des grands opérateurs de télécommunications, ou des grands opérateurs de télécommunications, eh bien, effectivement, là, on est sur une régulation du marché pour éviter, un, la création de monopoles, des situations d'abus de marché, d'abus de position, de situations dominantes, mais aussi des positions, j'allais dire, de goulot d'étranglement. On appelle ça des gatekeepers, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui deviennent indispensables pour que d'autres puissent s'exprimer et vendre leurs produits, et qui du reste...
Qui ne peuvent pas, on doit passer par eux.
C'est typiquement Amazon. C'est-à-dire qu'ils gardent, c'est des goulots d'étranglement. Donc toutes ces questions-là vont être effectivement, là encore une fois, régulées, avec une différence, là aussi. Pour les petits acteurs qui vont être, c'est comme pour les petites banques, eh ben voilà, il y aura des régulations qui seront assez souples, parce que nous sommes pour la libre entreprise, bien entendu, nous sommes pour l'innovation, et donc on va pas mettre les mêmes contraintes sur une petite plateforme qui naît et qui va inventer un nouveau service que sur une plateforme qui a des centaines de millions, voire des milliards d'utilisateurs. Bien entendu, là encore, notion de plateforme systémique. Nous sommes en train de qualifier précisément, de façon très précise, les paramètres qui vont qualifier ces plateformes systémiques, parce que là encore, Monsieur Martel, on est là pour 20 ans, donc il faut encore une fois avoir des paramètres qui soient incontestables et qui vont qualifier, y compris les grands opérateurs de demain qui n'existent pas aujourd'hui. Mais le problème, ce sera évidemment de faire en sorte, et c'est le problème qui c'est pas un problème, c'est on a parfaitement la législation maintenant qui est en train d'être finalisée, pour que ces plateformes puissent précisément éviter d'avoir ce rôle de concentration. Et si jamais, là encore, je le redis avec beaucoup de sérénité, mais également parce que c'est mon rôle, de fermeté, nous ne faisons ça contre personne. Contre aucune entreprise, ni aucun pays.
On est un état de droit.
Nous sommes un état de droit et notre mission est de réguler cet espace informationnel pour les 20 prochaines années. Je le redis. Et donc, en fait, il y aura évidemment, comme pour la loi de la concurrence aujourd'hui, les lois de concurrence qui régissaient jusqu'à présent, mais qui n'étaient pas adaptées, notamment ces problèmes de concentration ou de monopole dans le monde informationnel, parce qu'on l'a vu, elles étaient un peu longues à mettre en œuvre. Bien souvent, il fallait 1, 2 ou 3 ans pour étudier le cas. Et dans le monde du numérique, on sait que 3 ans, c'est presque une éternité.
Emmanuel Paquette.
C'est la raison pour laquelle nous allons donc avoir une régulation ex ante, qui est tout à fait différente, qui va nous permettre d'intervenir dès en amont pour pouvoir éviter ces problèmes de concentration, avec évidemment, là encore, une gradation de sanctions proportionnées, que j'espère que nous n'appliquerons jamais, mais qui iront évidemment de la sanction à l'interdiction, voire au démantèlement si c'était nécessaire.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors il y a une première fuite sur le projet de directive sur au moins 3 points sur lesquels je voulais vous faire agir. Le premier, c'était la nécessité pour ces plateformes, quand elles étaient en position dominante en tout cas, d'ouvrir les données collectées à des tiers, notamment à des acteurs plus petits, et qui est entré en concurrence avec eux sur certains types de services. Le deuxième point, c'était l'interdiction de traitement préférentiel. C'est en gros Apple qui pousse Apple Music sur ses iPhones, etc., face à Spotify. Donc ça fait en sorte que ça soit plus totalement possible. Et le troisième, la possibilité de désinstaller les applications qui sont nativement installées sur les smartphones. Sur ces 3 points, alors vous dites on ne vise personne, mais on voit franchement que c'est Google et Apple.
D'abord, il n'y a pas de fuite, etc. Vous savez, on est dans un monde où les choses, voilà, on est très transparent.
Oui,
puis moi je suis encore une fois, vraiment, je le redis, vraiment, mon bureau est ouvert, même de façon virtuelle, et Dieu sait que je mène un nombre très important tous les jours
de réunions
virtuelles. Pas que de Zoom, du reste. Il y a aussi Google, il y a Apple, je ne voulais pas les citer, il y a Microsoft. N'oubliez pas Cisco, il y en a plein. Et au fond, derrière, ma porte, je le redis, ma porte est ouverte. Tous ceux qui veulent, on a procédé à une très large consultation, la plus importante au monde. On s'est donné des mois pour demander précisément à tous ceux qui estimaient qu'ils avaient quelque chose à dire. Vous faisiez référence au fait que j'étais professeur de gouvernance, c'est très important pour moi, la gouvernance. Et donc, avant de prendre une décision aussi importante que l'acte législatif que nous sommes en train de finaliser, j'ai pris soin de permettre à toutes celles et tous ceux, entreprises, particuliers, ONG, syndicats, petites plateformes, grandes plateformes, qui avaient quelque chose à nous dire, y compris les États, de le faire. Nous avons reçu 3000 contributions. C'est un montant tout à fait considérable. On les a toutes analysées et prises en compte. Donc c'est vrai que dans celle-ci, il y a notamment les sujets qui sont évoqués, tels que vous venez de les évoquer, et qui sont importants et que nous traiterons.
Thierry Breton, en tant qu'entrepreneur, une question de Français.
Non, je ne suis pas...
En tant qu'entrepreneur français qui avait été dans ce secteur...
Je ne suis pas entrepreneur, je suis commissaire européen.
Non, mais
chaque jour suffit sa peine.
Ça ne m'avait pas échappé.
Mais ça m'aide. Ça m'aide pour les comprendre.
Mais ma question est...
Donc c'est en tant que commissaire européen, si vous me permettez.
Si on est sur Apple, on vous force à prendre iCloud. Si on utilise Word, même sous Mac, on est quasiment obligé de prendre OneDrive de Microsoft. Si on a un iPhone, on vous oblige quasiment à prendre Apple Music au lieu de Spotify. Dailymotion s'efface derrière YouTube. Est-ce que pour un Français, pour un Européen, ça ne vous fait pas verser des larmes?
Ne mélangeons pas.
Ah ben non, tout est assez proche. C'est de l'abus de position dominante.
Je crois que je me suis suffisamment expliqué sur précisément dans cette nécessité de réguler le marché sur les actes législatifs que nous préparons. Et évidemment, ils doivent corriger des positions qui seront considérées comme des positions d'abus de marché. On va les qualifier de façon, encore une fois, à ne prendre personne par surprise. Alors maintenant, le commissaire européen que je suis espère que dans les 5 ans qui viennent ou dans les 10 ans qui viennent, il y aura des grandes plateformes européennes qui vont voir le jour? La réponse est oui. Et même 3 fois
mais
oui.
Mais la question c'est, est-ce que vous voulez protéger Spotify, Atos, OVH et nos leaders européens? Est-ce qu'on veut les protéger ou est-ce que
la question n'est pas encore une fois, nous ne sommes pas encore une fois dans une logique protectionniste, nous sommes dans une logique de protection des utilisateurs et des individus que nous sommes, on a longuement parlé dans la première partie de l'émission, mais également des bonnes règles de fonctionnement du marché. Or, force est de constater, et je le dis d'autant plus après la très large consultation, j'ai oublié de vous dire du reste que c'était 66% qui étaient d'origine européenne, donc on a parfaitement compris. On n'avait pas besoin de ça. Mais c'est très important, encore une fois, de l'avoir maintenant documenté. Et nous allons, effectivement, réglementer et réguler tout cela. Mais c'est pas, encore une fois, en disant je protège un tel ou un tel, qu'on en sortira. Un point du reste. Derrière tout ça, et nos auditeurs le comprendront bien aisément, ce sont des données dont on parle. Alors, il y a 2 phases dans l'histoire des données. Il y a eu d'abord les données personnelles. Et force est de constater que, pour des raisons qui sont essentiellement des raisons de taille, les États-Unis c'est un continent, la Chine c'est quasiment un continent et qui était homogène. Eh bien, il y a des plateformes de données personnelles qui se sont créées, moins en Europe parce que nous étions trop fragmentés.
Mais il y a les données industrielles.
Et voilà, nous avons maintenant cette nouvelle vague qui arrive, et notamment avec la 5G, mais pas que, l'Internet des objets, les données industrielles qui vont être beaucoup plus importantes, je le dis, beaucoup plus importantes que les données personnelles. Et là, l'Europe est en situation extrêmement bien placée parce que la plupart des données industrielles, elles sont créées en Europe.
Et donc, puis on a nos fameux supercalculateurs.
Et donc, pas que ça. Parce qu'il faut aussi avoir les moyens de les stocker, de les protéger.
Et j'ai pas peur de le dire. Et de les utiliser, sinon ça sert à
rien. Et j'ai pas peur de le dire. Sous un système de lois qui soient des lois européennes et non pas des lois extraterritoriales. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, la présidente von der Leyen vient de le rappeler du reste dans l'extrait que vous venez de passer à vos auditeurs, en indiquant qu'il y a 3 points fondamentaux pour pouvoir précisément asseoir cette souveraineté, puisque c'est le terme qui est consacré et qui est repris par la chancelière numérique. C'est d'une part effectivement d'avoir une capacité de stocker ces données, de traiter, de les processer en Europe avec des clouds industriels. C'est deuxièmement d'avoir la capacité effectivement d'avoir les puissances de pour le faire, et c'est effectivement accroître très sensiblement notre capacité en fabrication de microprocesseurs, ça va devenir très très essentiel. Et puis enfin, la connectivité, c'est-à-dire partout en Europe, avoir la possibilité, y compris par des réseaux satellitaires en orbite basse, de pouvoir avoir un accès à toutes ces données, où que l'on soit, et quelle que soit sa condition.
Emmanuel Paquet.
Oui, vous parliez des données industrielles. Il se trouve que là, en quelques semaines, quelques mois, on a vu Airbus signer avec Palantir, société américaine, pour faire de la collecte et de l'extraction de données. On a vu un fabricant automobile français signer avec Google. On a vu Nokia signer avec un Américain. Donc, en fait, on est plutôt dans la tendance où les grandes sociétés européennes sont en train de signer parce que, déjà, ça coûte moins cher, parce que ils ont des data centers des centres de données un peu partout sur la planète. Ils sont extrêmement agressifs commercialement. Et donc, on voit quand même ce basculement des données industrielles quand même chez les Américains.
Non, alors, il faut être très précis. Et sur l'exemple que vous citez, que je connais bien, et je le redis parce que, voilà, vous voyez, on le dit depuis un certain temps, nous ne sommes pas naïfs. On sait très bien ce qui se passe dans le monde des données. Si une entreprise souhaite utiliser, vous l'avez cité, un algorithme, c'est le cas notamment de l'entreprise de Californie dont vous venez de parler. Je n'aime pas citer le nom d'entreprise pour ne pas leur faire de la publicité. C'est pas mon rôle en tant que commissaire.
Oui, c'est sûr, personne ne les connaît. Donc
voilà, donc on va vous laisser le faire, mais c'est pas le mien. Et qu'elle veut utiliser un algorithme parce que il répond à ses besoins. Mais bienvenue, bien sûr. En revanche, ce que demandent de plus en plus les entreprises qui vont les utiliser, y compris celles que vous venez de rappeler, c'est que ces données soient traitées en Europe, selon la loi européenne et pas le Patriot Act ou une loi chinoise, pour ne pas les citer. Sur donc des data centers et des serveurs qui sont européens, localisés en Europe, mais après qu'on utilise, encore une fois, les briques de technologie qui viennent, mais c'est bien normal, on est dans un monde ouvert, et Dieu soit loué, la seule chose, c'est de nous adapter sans naïveté au monde tel qu'il est, en faisant en sorte que l'on puisse offrir la protection nécessaire aux entreprises qui le souhaitent. On est ouvert à tous, elles sont ouvertes à toutes, mais c'est elles qui le demandent, c'est pas nous.
Thierry Breton, c'est comme ça que ça se passe. Il nous reste 4-5 minutes avant de clore cet entretien. Thierry Breton, qui n'est pas naïf, une question plus politique et plus un peu d'organigramme. Comment est-ce que vous travaillez avec Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, grande spécialiste et très active sur la régulation du numérique? Une réponse brève, s'il vous plaît.
Alors, d'abord, il faut bien comprendre que la Commission européenne, c'est un collège. Et donc, chaque commissaire, c'est la spécificité.
C'est pas un gouvernement.
C'est, c'est un collège, c'est-à-dire que chaque commissaire a, et c'est une femme ou un homme, une voix. Et donc, nous nous réunissons tous les mercredis matin, et on débat d'un sujet, et nous nous exprimons sur tous les sujets, y compris les sujets, on instruit, mais derrière, c'est un homme, une voix. Donc, je travaille extrêmement bien avec tous, y compris Margrethe Vestager, tous. Le deuxième point, c'est que il se trouve qu'en plus, Madame Vestager, qui est une formidable commissaire, a en charge la concurrence. Et donc, quand il y a des sujets de concurrence, elle les instruit. Je viens de dire, si vous m'avez bien entendu, que sur un aspect des choses, c'est pas la politique de concurrence stricto sensu qui va s'appliquer, c'est la politique, encore une fois, de marché ex ante. Voilà, donc vous avez la réponse à votre
question. Autre petite question rapide qui devrait prendre plus de temps. Next Generation Europe, c'est-à-dire le plan de relance, 750 milliards de l'UE, dont 20% vont être dédiés à la transformation numérique. Quelques informations sur ce point.
Oui, je me suis beaucoup battu à titre personnel sur ce sujet, parce que je pensais qu'il était absolument indispensable que dans cet effort absolument considérable que l'Europe va consentir, excusez du peu, en s'endettant sur 30 ans pour les générations à venir, il était très important. Très important qu'une partie de ces sommes soit utilisée pour précisément investir pour l'avenir de nos enfants qui vont avoir à rembourser ces sommes. Il faut appeler un chat, car cette dette sera remboursée. Et donc, avoir déjà 37% qui est consacré à l'économie verte et la transition écologique, c'est formidable. 20% pour la transition numérique, c'est donc quand même plus de 150 milliards d'euros. C'est quand même des montants tout à fait considérables. Et donc, on va effectivement veiller avec un dialogue singulier avec chaque État membre, car ce sont les États membres, je le répète, qui nous présentent à la Commission, à nous-mêmes, leur plan de relance. Nous veillons que dans ces plans de relance, au moins 20% pour la partie qui m'intéresse soit consacrée au numérique, et on rentre dans le détail. Alors il peut y avoir des opérations qui sont des opérations locales, il y en a beaucoup. Il peut y avoir aussi des opérations, des investissements. J'ai parlé de trois sujets tout à l'heure, les clouds industriels, j'ai parlé des processeurs, j'ai parlé des réseaux satellitaires, qui peuvent être des investissements qui sont multi-états, transfrontaliers, et là où chaque État membre va pouvoir y apporter sa contribution. Donc on veille à tout ça. On construit d'une certaine façon, encore une fois, la souveraineté numérique de l'Europe.
Une dernière question de Thierry Breton avant que vous partiez. Un slogan d'Apple, la marque Apple qui vient d'être lancée ce mois-ci pour l'iPhone 12 Pro, je cite la marque, « On n'arrête pas le progrès, on l'accélère ». C'est le slogan en l'occurrence d'Apple. Est-ce que certains élus, verts par exemple, en rejetant la 5G, ça me permet de terminer sur une question sur la 5G, peut-être pour de mauvaises raisons, malgré tout, ne disent pas avec justesse, halte au feu, on n'arrête pas le progrès, on l'accélère. Est-ce qu'il y a un moment où il ne va pas falloir dire slow, calmons-nous, soyons plus lents?
Dans ma vie, j'ai, à toutes les étapes de ma vie que vous avez rappelées tout à l'heure, et plus j'avance dans la vie, j'ai appris à écouter tout le monde. Chacun vous apporte quelque chose. Il est essentiel, et plus vous montez dans vos responsabilités, que vous écoutiez toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes. Et donc pour moi, toutes ces questions sont essentielles. Et voyez-vous, je conclurai là-dessus, c'est ce que j'ai essayé d'enseigner à mes étudiants. Quand vous êtes en situation d'exercer précisément une responsabilité, privée ou publique, en l'occurrence il s'agit d'une responsabilité publique, n'y a pas de petits sujets quand ils viennent à vous. Ils ont tous d'égale importance. Et donc, il faut écouter toutes les préoccupations, à charge pour nous, décideurs publics, précisément, de veiller à ce qu'on y apporte les réponses et d'avancer tous ensemble.
Merci infiniment à vous Thierry Breton, qui n'est pas naïf, commissaire européen pour le marché intérieur. Merci d'avoir été invité de Soft Power en direct ce soir sur France Culture. On vous laisse repartir à Bruxelles, vous devez rentrer je pense ce soir, non pas en Boeing j'espère, mais en Thalys j'imagine.
Oui, et une Europe qui, vous le dites au fond implicitement, qui n'est plus naïve.
On est gentil quand même, on avait de l'humour, non ? On vous a laissé parler, c'était pas un piège.
Formidable, merci beaucoup. Et donc, je vois que celui qui va me succéder, et dont je vois qu'il est très, très, très inquiet, parce qu'évidemment, il vient de voir ce à quoi vous m'avez subi.
Vous en êtes gentil.
Il y a pire.
Se prépare et on va l'écouter avec beaucoup d'intérêt.
Merci à vous. Soft Power, l'influence, la culture, les médias, le numérique. Dans un instant, la suite de l'émission avec à 19h le box-office de la semaine, suivi juste après de mon second invité ce soir qui vient de re-rentrer en studio, le journaliste suisse Darius Rochebain, devenu présentateur vedette de LCI. 19h30, le village global. Ce soir, je reçois Bérangère Kania du journal Le Courrier International pour un numéro spécial sur l'Amérique de Trump et peut-être ou pas de Joe Biden. Vous pouvez vous abonner au podcast du magazine Soft Power consacré chaque semaine à l'influence de la France, l'actualité des industries créatives et du numérique, des médias et de la politique culturelle. Ce podcast est disponible gratuitement sur la nouvelle application Radio France. Précisément 19h02 sur France Culture. Voici le box-office, notre séquence hebdomadaire proposée chaque dimanche dans l'émission Soft Power de France Culture. Elle est réalisée avec nos partenaires, l'Institut d'études de GFK pour les ventes de livres et de jeux vidéo et CBO Box-Office pour le cinéma, sans oublier le Billboard de la semaine et le Top 50 France de Spotify. Et ce soir, une histoire de patron. Au sommet des ventes de fiction cette semaine, on ne change pas une équipe qui gagne. Ce sont eux les patrons. Le trio Guillaume Musso, Marc Lévy, Ken Follett, dans l'ordre ou le désordre. Leur course en tête est un peu lassante, comme une sorte de Roland-Garros avec l'éternel Raphaël Nadal, triplé gagnant de 3 boss de la littérature mainstream. Pour être surpris cette semaine, nous qui ne sommes pourtant pas des enfants de cœur, il faut plutôt non pas regarder la littérature, mais la catégorie essai. À la 5e place, s'y trouve un objet rare, l'encyclique du pape François, titré Fratelli Tutti, tout frère en italien, un appel à la solidarité et au partage, mais surtout un livre politique, offensif, presque rouge. Le virus le plus difficile à vaincre, écrit le pape, c'est l'individualisme radical. Il dénonce aussi le dogme néolibéral, une pensée pauvre, répétitive, dit-il, un pape en grande forme, donc qui nous rappelle qui est le patron et qui rentre dans le débat à une semaine de l'élection présidentielle américaine, justement. La question maintenant, arrivera-t-il à convaincre ses 1,3 milliard de followers de, comme on le dit en marketing digital, de se convertir en acheteur de ses livres. Au cinéma maintenant, étonnante bonne nouvelle, malgré la pandémie, malgré le couvre-feu, malgré la triste ambiance, augmentation de 77% de la fréquentation des salles en France. Et nous ne sommes pas les seuls. Au Japon, le week-end dernier, sorti au cinéma de l'adaptation d'un manga à succès, Demon Slayer, ça veut dire les pourfendeurs de démons. Et ils ont tout pourfendu, 3 millions de personnes en un week-end, rien qu'au Japon. Un succès immense, plus que toutes les autres sorties au monde réunis. Bravo les Nippons, vous êtes les patrons. On finit en musique avec le boss Bruce Springsteen, 71 ans. Springsteen n'a plus de cheveux blancs, titre ce matin le JDD. Le boss qui, en plus d'un documentaire sur Apple Music, Apple Plus qui sort également, a un nouvel album, Letter to You, enregistré en une semaine. Et le timing compte pour le musicien indéfectible démocrate qui a promis de s'exiler en Australie si Donald Trump était réélu. Le clown criminel a volé le trône, entend-on sur l'album. Une musique puissante et généreuse qui résonne comme un appel à la fraternité et au soutien des laissés pour compte, un appel civique contre qui vous savez. À sa façon, c'est le Fratelli Tutti du pape François, version rock.
Summer nights, summer's in the air. I stack the tables with
Darius Rochemin, présentateur de LCI, nous rejoint sur France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous. L'intervention de Jean Castex est un cri d'alarme. 46 millions de Français sont soumis au couvre-feu. Des mesures plus dures pourraient être adoptées. Le ton s'est encore assombri. Et puis il y a ce chiffre qui marque la soirée. C'est un record absolu. 41 622 nouveaux cas en 24 heures. Absolu en Europe en ce moment. L'urgentiste Mathias Vargon réagira en direct. On entendra aussi le spécialiste des épidémies Didier Pité. Il faut, dit-il, se rendre à l'évidence. Le regain de ce mois d'octobre ressemble à ce qui s'est passé au printemps.
Rebonsoir Darius Rochebain.
Rebonsoir.
Vous vous entendez comme oui. Ça vous fait quel effet?
Oh, je suis pas narcissique. Alors, j'ai radio... beaucoup d'autres défauts, mais je suis pas narcissique.
Vous étiez le journaliste vedette, dit-on, lit-on, de la radio-télévision suisse à Genève. Vous voici dans la même position en France et vous animez donc le 20h de LCI. Qu'est-ce qui vous a surpris en rejoignant une rédaction française? Quel regard est-ce que vous portez sur ce pays que vous connaissiez déjà bien, mais dans lequel vous vivez constamment maintenant et vous êtes à l'écran?
À vrai dire, j'ai été surpris d'être surpris parce que je connaissais quand même très bien la France, mais en vivant, en étant dans le chaudron réellement, quand même les différences apparaissent encore plus fortement. Et le fait, par exemple, que tout soit tout de suite beaucoup plus polémique, et on le sait et on le sent évidemment quand on regarde les choses de Suisse, mais quand on les vit de l'intérieur, c'est encore plus frappant.
La violence verbale vous étonne?
Oui, la violence, parfois le mot est un peu dur, mais enfin oui, la violence, le fait tout de suite de prendre parti, ça m'a frappé chez les médecins, par exemple. En Suisse, il y a beaucoup de médecins éminents qui se succèdent sur les plateaux. En général, on sent des petites tendances chez les uns et chez les autres. Mais là, tout de suite, ils sont de droite, de gauche, macroniste, anti-macroniste, pro-masque, anti-masque à l'origine. Enfin, il y a une vivacité, parce que ça a aussi un côté positif, c'est la vivacité. Hein. Ça n'est pas que négatif, qui est évidemment très frappante.
Est-ce que ça vous permet une vision du journalisme différente? Est-ce que vous pensez que le journalisme suisse par rapport au journalisme français s'inscrit dans une autre filiation ou une filiation un peu différente?
Il y a peut-être le pluralisme originel des Suisses. C'est un système qui, depuis 1848, repose sur la coexistence. Vous voyez, dans un gouvernement, 7 ministres qui viennent de partis très différents, de la gauche à la droite. C'est comme si chez vous coexistaient au gouvernement
des gens de la République. Jean-Luc Mélenchon.
Oui, avec... ça pourrait aller de Jean-Luc Mélenchon à peu près à Marine Le Pen, même si ça n'est pas tout à fait comparable. Il y a beaucoup de différences. Donc évidemment, ce pluralisme naturel, cette espèce de sens du compromis naturel, c'est
plus
très différent.
Plus de politesse peut-être aussi, de respect.
Oui, avec toujours, vous savez, il y a toujours la part cachée. Ça cache sans doute une autre forme de brutalité.
Et avec des hypocrisies aussi, bien sûr.
Mais bien sûr. Mais l'hypocrisie, ça peut être pas mal.
Zoé Sfez.
Alors, vous arrivez de Suisse, Darius Rochebain, mais vous arrivez en plus sur une chaîne d'information, oui. LCI, chaîne d'information du groupe TF1, qui a connu un parcours assez étrange depuis la montée en puissance des chaînes d'info, et vous arrivez dans ce contexte d'une grande rivalité entre plusieurs chaînes d'info, et particulièrement avec BFM. LCI qui avait connu une belle chute, qui était déjà en remontée au moment où vous arrivez, il y a eu une belle remontée en 2019, qui est aussi très critiquée pour la place accordée au débat. Comment vous regardez la place qu'ont pris les chaînes d'info et comment est-ce que vous y avez trouvé une place en France? Me semble-t-il qu'en Suisse, il n'existe pas ce microcosme, cet écosystème-là.
D'abord, j'aime la presse. Vous savez, je suis très frappé, je suis assez présent sur Twitter. Il y a des confrères ou consoeurs ou des gens, de façon générale, qui très vite ont envie d'être vétilleux, de critiquer, de remarquer le tweet, la remarque qui est mauvaise, ça m'arrive aussi. Mais enfin, j'ai plutôt tendance à voir ce qui va Admirer, j'aime bien admirer.
Ça, c'est très suisse, alors.
C'est peut-être très suisse, effectivement. Et de façon générale, je trouve que les chaînes d'infos ont amené une vivacité, une diversité de points de vue qui est, en général, plutôt positive.
Et la rapidité, c'est pas un problème?
Je crois beaucoup à la rapidité. Je crois vraiment que, contrairement à un lieu commun journalistique, la rapidité, bien sûr, est hélas parfois source d'erreur, mais elle est surtout source de vérification beaucoup plus grande que dans le passé. C'est un peu hasardeux toujours de faire de l'histoire fiction, mais l'existence des camps nazis, l'existence des camps staliniens, on voit ce qui se passe en Chine avec l'existence des camps destinés aux Ouïghours. Malgré tout, même dans un système, on le sait plus vite, des photos circulent plus vite, là, les contre-vérités, mais aussi les vérités circulent plus vite. Et tout ça fait une sorte de grande conversation mondiale qui, attention, ne doit surtout pas supprimer la nécessité des grands médias. Et c'est pour ça que les grands médias classiques, comme le groupe TF1, mais évidemment le service public également, sont tout aussi importants, d'autant plus importants.
Alors vous avez été repéré dans La Grande Confrontation, vous étiez apparu, émission de David Pudajadas. Là, vous avez donc cette tranche, pour concrètement le dire, de 20h à 21h, c'est ça ?
21h15.
21h15, vous êtes en face de votre rival qui est Pascal Praud, et qui lui anime un débat, qui est un journaliste qui est issu du monde du journalisme sportif. La question du débat, vous avez un grand interview, et on va parler de vos techniques d'interview, et peut-être aussi de ce que l'interviewé en France a comme position. Comment est-ce que vous regardez ça ? Vous parliez précisément de l'information sur la rapidité. Or, l'autre grand pendant et la place de plus en plus grande du débat, qui n'est pas tout à fait de la même nature que la question de l'information, vous la regardez comment ? Vous faites une interview, vous animez, on n'est pas venu vous chercher pour faire du débat.
C'est vrai, c'est l'interview qui est un genre en soi. Et en plus, en l'occurrence, j'ai ce luxe de pouvoir prendre du temps, puisque ça peut durer 30 minutes, 40 minutes, même plus dans certains cas. Une heure et quart, on est allé jusque-là. Donc c'est un genre très intéressant parce que vous pouvez varier les moments. Il y a des moments très offensifs, un peu incisifs, et d'autres qui peuvent être plus humains, où il peut y avoir une patte plus humaine, donc c'est ça qui m'intéresse.
C'est du contre Pascal Praud, je pose la question un peu brutalement, qu'on vous demande de faire.
Franchement, je crois pas
c'est anti ou pro.
On n'a vraiment pas, je crois, une définition aussi commerciale de la... Mais c'est autre chose, évidemment, et c'est cette diversité qui est intéressante.
On a l'impression que vous faites un journalisme assez sceptique, d'ailleurs, je pense que vous accepteriez cette formule. Moi, journalisme de fait, un peu protestant, hein, même si sans doute vous ne l'êtes pas.
Je ne sais pas si c'est protestant, parce que c'est protestant. On a eu Calvin
qui a
brûlé Michel Servet. Il était pas si sceptique.
Non, mais il y a aussi un protestantisme plus doux.
Oui, bien sûr, c'est la réforme, c'est vrai. Je crois beaucoup au scepticisme, qui n'est pas un scepticisme par défaut. C'est pas du tout dire je crois à rien, je m'en fiche, etc. Non, au contraire, c'est un scepticisme de combat. Mais je crois beaucoup à ça, oui.
C'est-à-dire qu'il y a une complexité qu'il faut
puisque vous êtes dans les comparaisons bibliques, je vais vous dire, moi j'étais à l'école protestante à Genève, et un des textes qui m'ont le plus frappé, c'était le fameux texte où Ponce Pilate reçoit Jésus, et Jésus, évidemment, est un croyant. Et face à lui, Ponce Pilate lui répond « Qu'est-ce que la vérité ?» Et ce « Qu'est-ce que la vérité ?», je me rappelle, j'étais tout gamin, et déjà ce scepticisme fondamental du vieux Romain qui se méfie un peu des croyances trop intenses m'a plu.
Il n'y a pas de lecture mal bienveillante, pour parler comme un poète. Ce serait quoi vos références, à part la Bible ?
Dans le filon sceptique, il est très démodé maintenant. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était dans un examen en France. Beaucoup de gens ont cru que c'était le nom d'une station de métro seulement, c'est Anatole France.
Pourtant, son nom résume bien le pays.
Il était au bac, je crois. Des élèves ont dit, mais c'est quoi cette histoire ?
Qu'est-ce qui vous plaît chez lui, le côté un peu parnassien qui va annoncer d'ailleurs...
Dans sa jeunesse, oui. Et ensuite, le
Dreyfusard.
Bien sûr, Dreyfusard, et puis ultra sceptique, c'est-à-dire ce culte du scepticisme. D'ailleurs, il a écrit, je l'ai lu plus tard, une nouvelle qui s'appelle Le Procurateur de Judée, où il parle de, qui est une très très belle nouvelle que je recommande, où il parle de Ponce Pilate, qui, dit-il, à la fin de sa vie, a oublié même Jésus, parce que pour lui, c'était un cas parmi beaucoup d'autres.
Prix Nobel de littérature, oui. Académicien aussi, oui. Entre Proust et Zola, qu'il fait finalement, entre l'Humanité et le Figaro, entre l'Académie et le fait qu'il a rendu sa Légion d'honneur. C'est cette fluidité politique que vous aimez, un homme excessif dans la modération ?
J'aime beaucoup ça, oui. Je crois que les modérés, en fait, je crois que c'est le grand enjeu du 21e siècle, c'est est-ce que les démocraties peuvent être aussi dures ? Je parlais tout à l'heure avec Thierry Breton du « ce qui est le soft power », ça rejoint le titre de votre émission. Est-ce que l'Union européenne peut être un monstre doux, capable de force, y compris militaire ? Je pense que ça, c'est un grand enjeu. Et de la même façon, les démocrates doivent être durs. ils ne doivent pas avoir peur des moyens militaires, policiers pour se défendre.
Juste d'autres références pour pas juste avoir Anatole France et Ponce Pilate.
Je suis pas Anatole France, c'est pas un immense écrivain. Je mets plus haut d'autres écrivains comme Chateaubriand et d'autres ou Saint-Simon. Il y a plein d'écrivains qui en fait sont de bons maîtres en journalisme. Alors il y a des écrivains journalistes qui sont tombés dans l'excès. D'ailleurs, là aussi, variété. Moi, j'aime autant un écrivain comme Morand, qui est d'extrême droite en réalité, qu'un écrivain comme Aragon, qui est d'extrême gauche, qui a écrit des bêtises épouvantables sur le GPU.
Le communisme,
oui. Oui. Et puis, j'aime bien, je trouve que dans la littérature classique, je dis pas du tout ça par snobisme ou par cuistrerie. Souvent, les grands classiques sont des bons maîtres en journalisme. Mieux encore qu'un bouquin
vite torché. Et ça manque dans la formation des journalistes, justement, cette culture un peu classique.
Ça manque toujours. Ça manque toujours, bien sûr. Saint-Simon, c'est un maître en journaliste fantastique. Quand Saint-Simon voit dans la cour de France, il dit « il ne fallait qu'avoir des yeux ». Effectivement, le simple regard suffit. Le regard hypercritique, il a cette phrase, par exemple, quand le dauphin meurt, et il observe chacun, et vous savez, chacun ment un peu, on parlait d'hypocrisie tout à l'heure. Et moi, dans mon exercice journalistique, je vois ça souvent. Quand il y a un décès, vous savez, il y a évidemment tous les hypocrites. Il y a ceux qui sont ravis que la personne décède. Il y a ceux qui sont tristes, mais qui sont surtout pressés de venir sur un plateau de télévision pour se mettre en avant. Donc, tout ce petit jeu de la comédie humaine, évidemment, est passionnant.
Il y a beaucoup de gens, de journalistes qui citeraient Albert Camus, Hannah Arendt, George Orwell ou d'autres, pas vous.
Oui, bien aussi. Sûr, mais ce sont de très grands maîtres aussi. Mais encore une fois, les classiques sont irremplaçables.
Oui, moi, je vous ai vu citer Homer et j'ai lu que vous regardiez à nouveau les grands débats présidentiels, Winston Churchill, l'amour du grand verbe, du haut verbe et du sens de la formule.
C'est l'anniversaire de Mitterrand demain, par exemple, et les grands débats où Mitterrand.
Anniversaire de sa naissance.
De sa naissance, oui.
Merci de nous le rappeler.
Et
voilà, c'est quoi qui vous plaît chez lui? L'ambiguïté aussi,
oui,
la liberté.
Bien sûr, ces personnages qui ont tout
culture
balayé.
De droite.
Oui, de l'extrême droite à l'extrême gauche, quand même. Ouais. C'est assez fascinant, bien sûr.
Mais alors, justement, comment vous regardez la place qu'ont aujourd'hui ce qu'on appelle les éditorialistes, les polémistes, dont on critique, y compris sur votre antenne, la grande importance. LCI a été vertement tensé pour avoir diffusé la prise de parole, la conférence d'Éric Zemmour, sans prendre de pincettes, en diffusant cette conférence comme s'il s'agissait de celle d'un homme politique. Vous disiez que vous lisiez Winston Churchill, que vous admirez Mitterrand. Cette juste place de la parole et de la valeur de la parole, face par exemple à un homme comme le professeur Raoult, vous avez invité. Comment est-ce que vous la regardez? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous pourriez inviter, interviewer Éric Zemmour? Est-ce que aujourd'hui c'est quelqu'un?
Si Zemmour, par exemple, sortait un livre, bien sûr. Et d'ailleurs, je trouve que la polémique monte souvent un peu vite sur ce genre de sujet et de façon souvent un peu injuste. Encore faut-il fixer des limites. On avait encore jeudi en plateau un médecin Vargon qui s'est retourné contre moi en me disant « Ah, mais vous-même, les médias, vous avez invité n'importe qui, etc. »
Et
Mais je lui ai répondu bonne foi, non, quand même pas n'importe qui. On a invité des médecins qui, certes, défendaient des points de vue opposés, mais qui étaient des médecins quand même. On n'est pas allé chercher tel ou tel artiste.
Mais les experts interviewés sur les plateaux, c'est une bonne chose ou un problème?
Mais c'est la grande conversation, bien sûr. Il n'y a pas de vérité, unique. Et même en science, encore une fois, il s'agit pas d'aller chercher un zozo qui va vous dire n'importe quoi sur est-ce qu'il y a ou non une deuxième vague. Mais si c'est un médecin qui est dans sa spécialité, il a le droit d'exprimer un point de vue et ce serait un peu stérile 2 ans après de dire, il s'est trompé. Sans doute, il s'est trompé. Mais c'était dans un grand débat.
Mais comme les journalistes sont trop généralistes, etc., il faut faire appel finalement pour traiter la complexité des questions et ne pas les résumer à des sujets simples. Il faut faire appel à des experts. Finalement.
À des experts qui parfois se trompent aussi. Vous savez, moi, je me rappelle des émissions, puisqu'il est beaucoup question de l'islamisme violent en ce moment, je me rappelle très bien des invités qu'on a invités en plateau il y a un certain nombre d'années qui disaient, par exemple, l'Afrique, jamais l'islamisme ne prendra en Afrique, c'est pas possible. Ou bien qui disait pendant le printemps arabe, pas d'inquiétude, vous allez voir, ça c'est la révolution Facebook, vous avez beaucoup parlé de Facebook, il n'y a aucun risque d'islamisation violente. On a vu la suite. Donc les experts se trompent aussi.
L'Égypte était libérée, on a vu ce que ça a donné.
Voilà, exactement. Donc les experts se trompent aussi. Et ce grand jeu de la discussion et de l'erreur qui est inévitable, il faut l'accepter pour autant aller le plus vite possible vers la vérité.
Zoé Svez.
Et encore une fois, quand on revient sur la place, par exemple, là vous parlez d'un moment assez historique qui a été celui de ce coronavirus,
oui.
Où par ailleurs on a aussi peut-être mesuré à quel point le journalisme généraliste était faible. Est-ce que vous avez ressenti ça quand vous êtes arrivé à LCI? Concrètement, on a très peu, par exemple, de journalistes scientifiques dans ce genre, spécialistes de la science, dans ce genre de chaîne d'information.
Bon, d'abord, on a quand même... Dans le groupe TF1, des gens qui sont des spécialistes, ça me frappait un Georges Brunier sur la police, mais effectivement...
On espère quand même que dans un groupe comme TF1, oui. Il y ait des spécialistes de la police.
Mais bien sûr, mais je veux dire, la science aussi, ça compte beaucoup. Cela étant, le journaliste généraliste, ça reste pour moi quelque chose de très important, et je suis frappé de voir que, malgré toute l'évolution du monde aujourd'hui, les gens ont besoin de marques fortes. Et ils reviennent aux grandes marques.
Giroud nous manque, par exemple.
Oui, c'est vrai. De la même façon que l'Express, en son temps, représentait un rock, de la même façon, aujourd'hui, on va sur les réseaux, on va regarder n'importe quoi, y compris des sites un petit peu complotistes, un peu extrémistes, un peu...
Mais on veut quand même se rattacher
mais
à des voix.
Mais on se dit, tiens, je vais quand même aller voir sur le site
que
du Monde,
François
du Figaro.
Giroud.
Voilà, ouais. Exactement.
C'est son côté, quoi, qui vous plaisait. Canaille, un peu, qui vous plaisait.
Alors, j'aimais bien chez Giroud, effectivement, le côté légèrement canaille. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez lu les portraits d'elle.
Ouais. L'ironie aussi.
L'ironie, bien sûr. Mordante. Ça, c'est la qualité journalistique par excellence. Si vous êtes ironique, vous échappez à beaucoup de lieux communs.
Qu'est-ce que doit être une chaîne comme LCI aujourd'hui? Par exemple, le fraîchement nommé que nous avions reçu ici dans Soft Power, président du CSA, Roch-Olivier Maistre, a vertement critiqué et LCI et sa grande rivale BFM en disant les deux chaînes se tirent la bourre en allant vers les extrêmes et toutes les deux perdent de l'argent, on ne sait pas où elles vont.
Il aurait pu citer CNews au passage.
Et je crois qu'il l'a fait. Donc, mea culpa, vous êtes très nombreux. Ne parlons même pas d'ITélé qui existe toujours. Cette fameuse rivalité des quatre chaînes d'info, bon, vous arrivez, vous quittez votre pays natal et ce JT de la Suisse qui probablement était une place fort confortable. On va vers où? Quelle peut être la place d'une chaîne comme celle pour laquelle vous travaillez et par ricochet, la place d'un journaliste et d'une voix comme la vôtre dans 5-10 ans dans le contexte que nous décrivions tout juste auparavant avec Thierry Breton?
Je trouve que le bon équilibre, c'est d'avoir du panache, d'exprimer cette force de la conversation telle qu'on en parlait, mais tout en restant extrêmement rigoureux, extrêmement journaliste. Vous savez, le panache, il y a beaucoup de nostalgiques de ça. Moi, je vois ça dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui, au fond, seraient preneurs de journaux comme ils existaient dans les années 30, où ils étaient objectivement plus drôles à lire souvent
pour
que
le meilleur
d'aujourd'hui.
Et pour le pire.
Très souvent pour le pire, effectivement.
Ouais. Mais est-ce que les...
Selon que ce soit l'Humanité ou l'Action française, vous aviez alors un panache extraordinaire. Des grandes plumes, des grands auteurs, des Léon Blois et autres, des Daudet, mais qui étaient très dangereux parce qu'ils étaient talentueux, mais souvent très méchants et très extrémistes. Et tout l'enjeu pour nous, je trouve, c'est de cultiver cette variété des opinions, d'avoir, si possible, du style, d'avoir du panache, si possible, mais tout en gardant une exigence journalistique très grande. Est-ce que c'est ce qu'on essaie
mais
de
un
faire.
Mais un grand chroniqueur comme Léon Blois, comme une François Giroud, un Angelo Rinaldi, on peut citer beaucoup d'autres exemples, avait une semaine pour écrire sa chronique. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas un problème, mais une spécificité des chaînes d'information, notamment en termes de vérification d'informations, de connaissances, de prendre la hauteur, du recul, quand on est en direct, en permanence, avec des réseaux sociaux?
Ça ne veut rien dire. Vous savez, franchement, les journalistes ou écrivains qui rentraient de Berlin, je crois que c'était en 33, j'ai plus la date en tête, et qui ont écrit d'épouvantables conneries, ils ont eu des semaines pour écrire, Donc ça ne veut strictement rien dire.
Mais
la rapidité, encore une fois, souvent amène de la qualité d'information. Et là, en revanche, ce que vous disiez est très important, c'est vrai que la culture générale de base sert. C'est vrai que si vous êtes, moi j'avais interviewé Raoult, je prétends vraiment pas être spécialiste en microbiologie, je suis très loin de ça, mais avoir potassé son dossier, pouvoir quand même amener un contre-argument, évidemment, ça aide.
Mais il y a des conditions sociales aussi, économiques. Il y a une paupérisation d'un journaliste. Quand vous avez un article à écrire, comme dans le New Yorker, tous les 3 mois, et qu'en France, sur des sites web et parfois sur des chaînes d'actualité, vous avez 3 articles à écrire chaque jour, ça change tout.
L'argent est une donnée journalistique. C'est-à-dire avoir de l'argent pour enquêter, avoir une solidité qui fait aussi, ça vous donne un aplomb. Je me rappelle très bien, c'était des confrères de Match d'une certaine époque qui me disaient ils allaient dans de bons hôtels. Et ça a l'air de rien. Mais le fait qu'ils soient non pas dans un petit hôtel crasseux à l'extérieur de la ville, mais qu'ils soient dans le même hôtel que la star qu'ils allaient interviewer, ça change tout à fait
le rapport. Mais aujourd'hui, ils prennent même plus l'hôtel. Ils vont même plus en hôtel. Oui. Ils envoient un email et ils sont sur Zoom.
C'est très révélateur.
Et
vous savez, les gens, ils se parlent souvent, se fait inviter au restaurant. C'est rien. Vous ne faites pas acheter parce qu'on vous paye. Mais ça crée quand même un petit rapport de force où vous êtes l'invité.
Ouais, théoriquement, éthiquement, on se doit de refuser.
Mais... C'est pour ça que, effectivement, même pour des... C'est psychologique, mais ça compte.
Mais là, vous parlez toujours, encore une fois, du journalisme. On le sait, le principal problème du manque d'argent de ces chaînes a conduit à organiser des émissions de débat. Dans une brillante interview, un ancien animateur d'une chaîne d'info qui s'appelle iTélé, Antoine Janton, disait « Pourquoi il y a autant de débats ? Parce que ça coûte pas cher. Vous donnez un cachet relativement faible à un éditorialiste qui va en recevoir plusieurs, parce qu'il peut être présent, que ça coûte beaucoup, beaucoup moins d'argent. »
Quand il a un cachet, parce que beaucoup d'experts n'ont pas de cachet.
Non, en ont. Et c'est donc 3 heures d'information qui vous coûtent quasiment rien versus 3 heures de reportage qui vous coûteraient beaucoup. Vous disiez tout à l'heure, vous faisiez référence à ce fameux journalisme des années 30. Il a pour principal, on peut en admirer le panache, il a pour principal caractéristique ce journalisme d'avoir aussi beaucoup avivé les tensions et disons monté et polarisé encore des visions du monde. On a vu ce que ça a fini par donner. Comment est-ce que vous pouvez à la fois défendre cela et défendre d'une certaine manière un critique mais une forme de modération? Vous avez parlé de quoi? De modération extrémiste tout à l'heure?
Oui, mais le débat n'est pas une mauvaise chose en soi. Le débat, vous savez, si vous regardez les débats des années 80, on parlait tout à l'heure de Mitterrand-Giscard, il se dit des énormités incroyables. Si vous regardez le débat, je crois que c'est de 74, Mitterrand dit qu'on va tout nationaliser, qu'on va nationaliser toutes les banques. Et il y a des positions comme ça extrêmes.
Il dit aussi changer la vie.
Oui, ben voilà,
la campagne
généreux.
De 72-74.
Est-ce qu'ils y croyaient eux-mêmes? C'est pas sûr. Mais pour vous dire que à toutes époques, il y a eu des débats extrêmes. À toutes époques, il y a eu des positions difficilement défendables. Mais l'important, effectivement, c'est qu'ensuite vienne une vérification journalistique.
Mais est-ce qu'on n'assiste pas à une certaine fin d'un âge d'or, malgré tout, du journalisme?
Il faut espérer que non. Mais hélas, c'est vrai. Pour moi, c'est une crainte très réelle. C'est-à-dire, il y a une part de l'opinion qui, sans doute, ce journalisme de fait, d'objectivité, qui est en grande partie né de l'après-guerre et en grande partie aux États-Unis, il faut le rendre pour ça hommage, même si leur journalisme est beaucoup moins un modèle que ce qu'on le dit souvent. Enfin, voilà, ce journalisme-là, il est contesté par une partie de l'opinion qui dit oui, c'est bien, mais nous, au fond, nous, on veut, comme je vous le disais tout à l'heure, du panache, de l'excès, de l'extrême, un peu de violence, pourquoi pas. Et il faut pouvoir, c'est pour ça que je vous parlais de cet équilibre tout à l'heure, accepter une part de ça. Il s'agit pas d'être ennuyeux, ça c'est le pire des choses, parce que les gens vous fuient. Et il s'agit pas du tout de vouloir...
Donc il y a un souci du public, malgré tout.
Mais bien sûr,
évidemment.
Du public et du débat d'idées.
Là, on rejoint François Giroud, d'ailleurs.
Vive le débat d'idées, même offensif, même un peu agressif, parfois. La violence, tant qu'elle reste dans le verbe, dans la beauté du verbe, et qu'elle ne bascule jamais dans l'incitation à la haine. Mais très bien.
C'est vrai que la nuance est extrêmement complexe.
Ça m'est arrivé, moi, de faire des débats, par exemple, avec des islamistes au sens non pas violent, attention, ou avec des juifs intégristes. Mais j'ai eu ça en Suisse, parfois j'avais à la même table un juif intégriste et un islamiste. Et on se rendait compte, par exemple, que beaucoup de sujets, sur les femmes par exemple, ils avaient l'un et l'autre des positions intenables pour moi, par exemple. Mais ils ne basculaient jamais dans la violence, ni les uns ni les autres. Donc on restait dans un débat très vif, très généreux. Voilà. Et pour moi, c'est l'exemple, un exemple parmi cent autres, de la force du débat qui ne veut pas dire du tout qu'on abandonne ses principes.
Terminons par des exemples américains de télévision. Oui. Je pense au Daily Show, notamment très beau portrait de Trevor Noah cette semaine dans leur série de Courrier International. On en parle dans un instant, 19h30, avec Bérangère Cagnac, qui est responsable du service américain du Nord du Courrier International. Est-ce que c'est des modèles pour vous, que ce soit à l'époque Jon Stewart, que ce soit, je ne sais pas, The Late Show de Stephen Colbert, sur NBC, Jimmy Fallon, ABC, Jimmy Kimmel et celui que je citais, Trevor Noah.
Oui, l'humour, là, l'esprit critique, là, l'humour, vraiment l'ironie, encore une fois, c'est la qualité journalistique principale et puis c'est ce génie. On citait les grands classiques, vous savez, il y a une pièce, je crois que c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, Échille, qui avec un humour inouï, qui est un combattant, pourtant c'est un général grec, il se met à la place des Perses. C'est-à-dire, il a ce génie de se mettre à la place de ses pires ennemis. Et pardon pour la picotée narcissique, je me contredis par rapport à ce que je disais au début. Il fait parler l'ombre de Darius, qui est l'empereur perse.
Mais là, on est très loin de Trevor Noah.
Non, eh bien, je vais vous y ramener, parce que Darius dit « riez ». Il dit aux Grecs « riez, amusez-vous, c'est la meilleure manière de montrer que vous êtes une démocratie empire autoritaire qui est l'Iran, et c'est comme ça que vous gagnerez. »
C'est ce qui les sauve dans le Daily Show, par exemple, l'humour au fond de l'ironie encore, et même le rire.
C'est une très grande qualité journalistique, absolument, peut-être la principale.
Merci d'avoir été notre invité, Darius Rochevin. Vous pouvez rester jusqu'à la fin de cette émission. On parle maintenant des États-Unis, un pays qui forcément vous intéresse.
Soft Power, le village global.
19h30 précisément sur France Culture, le village global, nouveau segment, nouvelle séquence internationale centrée sur les débats d'idées, la culture au niveau global, car le monde est un village global. Avec nous, Bérangère Cagnard, responsable du service Amérique du Nord de Courrier International, à l'occasion de la parution d'un hors-série États-Unis que Zoé Fès et moi-même avons lu avec passion, et Darius Rochevin, présentateur de LCI, qui reste avec nous pour cet entretien. Zoé Fès.
Alors peut-être une question, quel était l'enjeu de faire ce hors-série? On est à un moment donné extrêmement crucial, je pense que tout le monde s'accorde à le dire, de l'histoire de ce pays, comme à toutes les élections présidentielles, mais pas uniquement. Comment est-ce que vous avez choisi, vous avez fait les choix éditoriaux de cette hors-série, sachant que, et on vient de l'évoquer, plus que jamais je crois, la presse américaine est extrêmement polarisée et rend compte, même s'il y a des nuances, et vous en rendez très bien compte, rend très bien compte de la polarisation totale du débat public américain. C'était quoi, justement les écueils et les choix qu'il fallait faire sur ce hors-série?
Alors, bonsoir tout d'abord.
Bonsoir, mais oui, surtout bonsoir.
Surtout, voilà. Alors, c'est évidemment pas la première fois que Courrier International sort des hors-séries et, a fortiori, sort des hors-séries avant les élections américaines. Moi-même, j'en ai déjà dirigé.
J'en avais quelques-uns en besace.
Voilà. J'en ai quelques-uns en besace. C'est vrai que cette année, ça n'a pas été évident comme exercice. Alors, donc, on a l'habitude de le faire. Nous, notre métier de journaliste à Courrier International, c'est de reprendre la presse. Le mien, en l'occurrence, c'est de reprendre la presse américaine, mais c'est donc de reprendre les médias étrangers pour arriver un peu à montrer aux lecteurs français, au public français, ce qu'on dit dans les pays directement. Et donc, c'est vrai que là, il y avait quand même un fort enjeu parce que ces élections sont quand même beaucoup plus difficiles à couvrir aux États-Unis et en France également, du coup. Donc, c'est vraiment, effectivement, il y a ce sens de la polarisation. Il y a la difficulté aujourd'hui d'arriver à rendre compte un peu de toute la diversité des médias américains, parce qu'il y a eu vraiment, sous la présidence Trump, un énorme, énorme clivage. Et enfin, je pense que tout le monde l'a entendu à ce stade-là, mais Trump, donc, traitant les journaux américains, et notamment le New York Times, mais également les chaînes de télé comme CNN, mais également le Washington Post, donc les traitant de fake news, disant que c'était eux qui faisaient de la désinformation, et les médias américains obligés de se défendre. Et donc, et parfois
plus
même...
Plus que de se défendre, parfois même d'aller habiter, d'aller véritablement se positionner comme des adversaires. C'est l'une des questions. Quels sont finalement les thèmes que vous avez retenus? Il y a une très très grosse partie consacrée au renforcement des fractures, et ça c'est probablement l'un des thèmes les plus intéressants. Est-ce qu'on entend aussi cette presse, dont on sait qu'elle est essentiellement télévisuelle, c'est une question rhétorique que je vous pose ici, notamment Fox News, cette presse qui, et elle existe encore, soutient à certains endroits le président Trump?
Absolument. Alors d'abord, elle existe. Donc effectivement, il y a les chaînes de télé et parmi elles, surtout la chaîne de télé Fox News, même si parfois il y a quand même des bisbilles entre Donald Trump et Fox News. Hein. Tout ne va pas. D'ailleurs, il y a même une autre chaîne de télé qui s'est montée encore plus favorable à Donald Trump et qui du coup ne s'attirait pas les foudres du locataire de la Maison Blanche. Par ailleurs, il existe également des sites internet et des journaux pro-Trump, quelques-uns. Et à Courrier International, on a été confronté assez vite au début du mandat de Trump à cette question d'abord, et à ce type de médias qui sont des médias un peu nouveaux, parce que c'est surtout des sites internet très sensationnalistes, très difficiles à traiter pour nous d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie de l'information, parce qu'il y a une mauvaise foi. Je pense notamment à Breitbart News, qui était quand même l'organe de presse de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump.
On connaît bien.
Voilà.
Qu'on a reçu dans cette émission.
Ah, absolument, d'accord.
Non, mais justement, une question sur
vous
ça.
Aussi, vous allez assez loin dans les invitations, je vois.
Ah, absolument. Ah, non, on reçoit,
bah,
non mais la question c'est, vous allez avoir un peu plus, un peu moins de 50% des Américains qui vont voter pour Donald Trump. On espère sans doute ici beaucoup à être à ce que ce soit un peu moins de 50%. Mais comment est-ce qu'on les représente dans Courrier International? Si on prend votre numéro, en réalité ils sont très absents. Vous avez des titres qui sont le San Francisco Chronicle, Los Angeles Times, The Financial Times, The New York Times, le Wall Street Journal, le Washington Post, The Atlantic. Ce sont tous des journaux, disons, libéraux, tous démocrates à fond. Et donc, vous voulez traiter, par exemple, les armes à feu, c'est quelqu'un du Wall Street Journal qui en parle. Quand vous voulez parler, de Kamala Harris, ou même même de, de figures encore plus à gauche. Je pense bien sûr à Alexandria Ocasio-Cortez, dont vous faites un très beau portrait, d'ailleurs tout à fait légitime, sauf qu'on est sur la gauche extrême, en tout cas dans le vote américain. Pourquoi ne pas trouver un moyen de donner sa parole, la parole à The Epoch Times, dont on parle ces jours-ci, à The Daily Caller, et à toute cette noisy right-wing machine, c'est-à-dire la machine de la droite américaine dure, bruyante, qui n'est pas finalement représentée dans un numéro comme le vôtre. Et du coup, on est un peu hémiplégique, on n'a qu'un côté de l'Amérique.
Alors, c'est absolument pas une intention. On essaye vraiment d'aller chercher des sources pro-Trump. On essaye d'aller chercher de la presse conservatrice.
Me faisais l'avocat du diable, vous comprenez bien.
Absolument. Et pour ce qui est de la représentation des électeurs de Trump ou des supporters de Trump, c'est le même procès qu'on a fait d'ailleurs à la presse américaine mainstream. C'est-à-dire que, justement, avant l'élection de Trump en 2016, on disait mais personne ne l'a vu venir. Les grands journaux américains, qui quand même ont une force de frappe en termes de reportage, en termes de déplacement dans le Midwest, dans certains États-clés, ils n'ont pas réussi tellement à le voir. Et d'ailleurs, vraiment, en 2016-2017, il y avait énormément de reproches faits aux journalistes américains. Ce qui fait que nous, Courrier International, comme on reprend la presse américaine et que à l'époque il n'y avait pas encore de médias pro-Trump d'une certaine façon, ou très difficile à trouver.
Il y a quand même beaucoup de médias, notamment régionaux, républicains, clairement.
Pas tant que ça, figurez-vous, pas tant que ça. Par exemple, là, un exercice très simple. Juste avant les élections américaines, il y a ce qu'on appelle la saison des endorsements. C'est quand les journaux, parce qu'aux États-Unis, les journaux prennent parti pour l'un ou l'autre candidat et expliquent dans des éditoriaux qu'ils soutiennent, s'ils soutiennent
ce
Biden.
Ce qui culturellement est très troublant pour nous, par exemple.
Absolument, pour nous,
on le fait très peu en France,
c'est vraiment là sous forme d'éditorial.
Il n'y a que l'humanité qui le faisait à l'époque et éventuellement.
Qui le fait probablement encore.
Qui le fait encore.
Eh bien, figurez-vous que j'ai cherché un peu partout et notamment dans les journaux régionaux des endorsements pour Donald Trump et il y en a.
Oui, mais prenons le New York Times. Il y a des chroniqueurs qui s'appellent Russ Duttat ou David Brooks qui sont des républicains, alors pas forcément très pro-Trump en particulier en ce moment. Malgré tout, c'est des figures républicaines. Vous les reprenez très rarement, en tout cas pas dans ce numéro-ci.
Ah non, on les reprend relativement souvent. Non, ce sont vraiment des chroniqueurs qu'on lit très très régulièrement et effectivement dans les grands journaux libéraux américains du type New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, ils s'efforcent dans leurs pages éditoriales d'avoir les deux côtés en fait. Ceci dit, les deux chroniqueurs que vous avez cités sont plutôt des républicains très bon teint, voire même des à peine centre-droit.
Oui. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un catholique dur, mais effectivement, anti-Trump ces derniers jours, il a d'ailleurs fait un article très bon qui s'appelle « Trump is giving up ». Concrètement, Trump est en train d'abandonner. Je ne sais pas si c'est, si c'est ce que les républicains pensent. En tout cas, c'est ce qu'il a écrit dans le New York Times cette semaine. Une remarque d'Arius Rochebain sur ces sujets ?
Non, évidemment, c'est fascinant parce que beaucoup de choses viennent ensuite en Europe et notamment la force de l'identité dans ce monde-là. Est-ce que tu es blanc? Est-ce que tu es noir? Est-ce que tu es, etc. Ça a pris une dimension qui est assez inouïe.
Ça fait partie d'un des cinq points que vous relevez d'ailleurs dans ce hors-série, puisqu'il y a toute une partie qui s'appelle antiracisme, l'affrontement. Sur la question du renforcement des fractures, vous avez fait le choix, notamment, même s'il est venu extrêmement tard, vous pouvez peut-être nous parler de cet article, moi, qui m'a beaucoup fascinée, sur le poids de cette fameuse théorie QAnon, dont on a parlé très très tardivement quand même, qui, comme on en parlait tout à l'heure avec Thierry Breton, a probablement une force de frappe inouïe, mais qui a beaucoup circulé, par exemple, par WhatsApp, donc de manière un peu difficile. 60 candidats au Congrès qui se réclameraient de cette théorie.
Conspirationniste
totalement, selon laquelle, en gros, les démocrates seraient tous des pédophiles qui viseraient le contrôle du monde.
Absolument, c'est complètement ça. C'est absolument, totalement conspirationniste. Et effectivement, quand on lit à propos de Canon, on a l'impression que c'est vraiment, mais complètement farfelu. Alors, vous avez dit, il y a 60 candidats au Congrès, que ce soit à la Chambre des représentants ou au Sénat, qui s'en réclamait au début de la campagne. À ce stade de la campagne, à 9 jours des élections, il y en a plus que quelques-uns qui surnagent vraiment. Mais c'est vrai que c'était quand même particulièrement choquant de voir des candidats au Congrès de Washington se réclamer d'une telle théorie de la conspiration.
C'est inimaginable.
C'est absolument inimaginable. Pour nous.
Oui. Et toujours, vous me rappelez d'ailleurs que Donald Trump a eu du mal à dire que c'était du conspirationnisme en interview. De la même façon. La question de la gestion du Covid, comment est-ce qu'elle est ressortie justement dans la presse? Parce qu'on a bien vu qu'il y a eu un flottement aux États-Unis du fait de l'énormité du pays, de la question des États, de la question du pouvoir central qui a été très très flottante. Quel choix vous avez fait? Qu'est-ce qui est saillant dans ce choix de hors-série sur cette question du Covid?
Alors, on a choisi notamment de prendre un très très long article très argumenté d'un journaliste du magazine The Atlantic qui s'appelle George Packer, qui est journaliste et écrivain également.
Grand journaliste du New Yorker longtemps, avant de basculer au The Atlantic.
Absolument, oui, oui, oui. Et effectivement, c'est un article pour le coup très critique sur la gestion par Donald Trump de la crise du Covid-19, mais en même temps extrêmement argumenté, étayé. Donc ça c'était un vrai choix éditorial de choisir, parce que c'est vraiment un des journalistes américains qui a vraiment en vue ces dernières années. Ça, c'est une chose.
L'article s'appelle « L'insoutenable vulnérabilité de l'Amérique ». Gros article dans votre numéro spécial.
Voilà. Et il y a peu, alors finalement, et c'est probablement parce que c'est un hors-série et que cette question se pose de manière extrêmement rapide, imminente, et elle finit par angoisser beaucoup. Peu d'articles finalement, mais comment est-ce que vous regardez cette question qui en fait est sur toutes les lèvres aujourd'hui, qui est celle concrètement de savoir si Donald Trump pourrait ou pas contester les résultats de cette élection. L'un des très beaux papiers justement de la question des renforcements des fractures, y compris en conclusion du Covid, c'est que la vente des armes est en très grande augmentation. Ça, c'est par exemple probablement un des effets de la crise du Covid aux États-Unis qu'on n'a peut-être pas vraiment vu de France. C'est-à-dire que non seulement les gens effectivement travaillent moins, mais que les chiffres de vente d'armes ont explosé. Comment est-ce que vous avez essayé de prendre en compte ou pas cette question? C'est-à-dire, est-ce qu'on est quand même face à une situation où on peut avoir un président qui pourrait conserver le pouvoir?
Oui, oui, tout à fait. Donc, on a effectivement choisi, il y a eu, je dirais, à peu près il y a 2 ou 3 semaines, une explosion dans la presse américaine d'articles faisant un peu les scénarios du pire pour cette élection, en disant toutes les choses qui pourraient mal tourner, notamment le fait que Trump pourrait essayer de contester le résultat des élections, mais également toutes les craintes liées au vote par anticipation et surtout au vote par correspondance. Donc, il y a énormément
qui pourrait contester, il s'est presque engagé à le contester en direct à la télévision. C'est incroyable.
Absolument, mais en même temps, il faut savoir que très récemment, par exemple, on a appris qu'en Pennsylvanie, les votes par correspondance pourront être comptabilisés même s'ils arrivent après le jour du scrutin. Donc ça va poser des énormes problèmes justement pour compter les votes, pour s'assurer que les résultats sont tout à fait fiables, etc. Donc les bulletins auront dû être envoyés avant le 3 novembre, la date des élections, mais ils pourront encore, s'il y a des retards de courrier, être comptabilisés jusqu'à 3 jours après la date du scrutin. Ça va être extrêmement complexe. Et la Pennsylvanie est un état clé.
Darius Rochebain, comment vous allez organiser cette nuit-là électorale?
La chaîne fait un très grand effort. Et nous aussi, dans l'émission de 20h-21h15, on invite plusieurs spécialistes pour scruter cette Amérique où la violence, pour moi, est historique. Vous savez, ça m'a toujours frappé, pas seulement chez Trump, hein, en général, sous le vernis tellement juridiste, un petit peu luthérien, très correct, etc., il y a toujours une violence sous-jacente dans toute leur histoire.
Vous allez rester toute la nuit éveillé?
Oui.
Évidemment.
De temps en
il
temps.
Faut.
Aussi, Frédéric.
Et moi aussi.
Et
merci
moi aussi,
infiniment, Bérangère Cania. Superbe numéro, Les Fractures de l'Amérique. Oui. Numéro spécial Courrier International, hors série, en vente tout le mois d'octobre et de novembre pour 8,50 €. Merci infiniment à Thierry Breton, Darius Rochebain, Bérangère Cania. Merci Emmanuel Paquette de l'Express, Zoé Fès de France Culture. On en reste là pour ce soir. La semaine prochaine, dans Soft Power, je recevrai le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ainsi que Bruno Crollo, le PDG de Spotify en France. C'est la fin de cette tranche d'actualité en direct culture, médias, international et numérique. Dans un instant, le podcast Guillaume Erner, Super Fail, suivi 20h de Théâtre et Compagnie, mission coordonnée par Blandine Masson. Et j'ai encore le temps de vous signaler que demain, les matins de France Culture s'intéressent à la question du Covid avec Patrick Artus, chef économiste de Natixis, sujet économie en temps de post-Covid, les faux espoirs d'une reprise à ne pas rater. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.